c'est Intégral Tour, Christophe Cessieux.
L'Intégral Tour, dans quelques instants, nous allons évidemment vous faire vivre cette sixième étape du Tour de France entre Aix-en-Provence et Montpellier. Mais vous le savez, la formation de l'après-midi, de ce début d'après-midi, c'est la qualification de Marion Bartoli pour la finale du tournoi de Wimbledon. Match que nous avons vécu avec Eric Salio et Patrice Dominguez. Évidemment, le monde du tennis français est en émoi. Elle est là, prête à décrocher un titre à Wimbledon et c'est pas rien. Nous sommes en ligne avec Patrice Ajalauer qui est avec nous. Bonjour Patrice.
Bonjour.
Patrice, c'est exceptionnel ce qu'a réalisé Marion, une qualification comme ça, sans douleur, presque un galop d'entraînement, et la voilà en finale, 6 ans plus tard, c'est énorme.
Ben oui, j'ai envie de dire que écoutez, le bonheur continue, hein, depuis le premier tour jusqu'à la finale, elle n'a pas eu de soucis. Et elle a su imposer son jeu, je dirais, à chaque fois. Elle a joué avec cette manière de bousculer ses adversaires. Enfin, c'est quelqu'un qui est assez, elle est assez étonnante, hein, dans sa manière de jouer. Elle met les adversaires en face en panique. À l'image un petit peu de sa manière de retourner, où elle rentre, elle est souvent à un mètre, voire de temps en temps même encore plus à l'intérieur du court, et ça crispe toutes ses adversaires qui ont des fois vraiment des problèmes d'ailleurs pour essayer d'allonger leur service. Non, c'est vraiment un grand bonheur de l'avoir là, et quel plaisir ça doit être pour elle. Et puis vous savez, pour son entourage aujourd'hui qui travaille avec elle, je pense à Amélie Mauresmo, Alexandra Fusée, qui sont autour d'elle et qui certainement lui apportent aussi pas mal de sérénité.
Ouais, c'est vrai que l'expérience d'Amélie, qui a déjà remporté ce tournoi de Wimbledon, c'est important d'avoir quelqu'un qui a connu ces émotions-là auprès de soi dans les grands moments, comme une demi-finale ou comme la finale qui l'attend samedi.
Moi je pense, hein, je pense que c'est très important pour elle, si vous voulez, de se retrouver dans une ambiance où il y a des joueuses qui ont de l'expérience, et ça c'est peut-être quelque chose qui pouvait lui manquer lors de sa première finale. Espérons que ça l'aide pour la finale qui est à venir. Je crois que le fait d'avoir Amélie, qui est non seulement une joueuse qui a gagné, mais c'est quelqu'un qui, quand elle parle, amène beaucoup de confiance aussi, amène de la tranquillité, de la sérénité, je pense que ça va lui faire du bien à Marion.
Ouais. Alors Patrice, on disait tout à l'heure que évidemment se qualifier pour une finale d'un Grand Chelem, c'est énorme, mais remporter un tournoi du Grand Chelem, vous étiez auprès d'Yannick Noah lorsqu'il a remporté en 83 Roland-Garros, ça peut changer complètement une carrière de remporter un titre d'une telle importance.
Ça peut changer une carrière, et des fois ça change même une vie,
bien, hein, sûr.
Vous savez, c'est que on voit les choses un peu différemment après, et je dirais que s'installe aussi une confiance en vous qui est énorme, et je pense que si Marion arrive à remporter ce dernier match, parce que c'est toujours la finale, hein, le moment le plus difficile, je pense qu'on devrait découvrir une autre Marion encore. Et elle n'a pas fini de nous surprendre.
Ouais, une Marion qui a changé de toute façon, Patrice, depuis quelques temps. Il y a une espèce de mue, on a l'impression que c'est devenu une autre joueuse, une autre femme, et que ce changement est évidemment bénéfique et qu'elle en touche les dividendes aujourd'hui.
Oui, j'ai cette impression. Bon, il ne faut absolument rien retirer, hein, aux apports de Walter, son papa, hein, qui l'a amené justement à jouer de cette manière, et qui a participé, je dirais, à 99,9% de ce que Marion est aujourd'hui. Mais effectivement, à un moment, c'était peut-être important pour elle, ben, de se libérer de tout ça et de voir les choses autrement. Et je pense que ça lui a fait du bien. Vous savez, à certains moments, on voit ça, même chez les garçons. Regardez ce qui s'est passé avec un Joe Tsonga, qui a plus voulu, pendant un moment, travailler avec son entraîneur, et a voulu être seul. C'est même arrivé à Federer. Je pense que ça leur fait du bien, à un moment, ben, de se responsabiliser, de voir les choses différemment. Et c'est ce qui lui est arrivé. Et elle s'est entourée elle-même. Elle a fait ses choix, qui n'ont pas marché au début, mais bon, ça a l'air aujourd'hui de marcher. Et puis je pense vraiment que le fait qu'Amélie soit autour lui apporte beaucoup de choses.
Ouais. Patrice, alors ça fait du bien évidemment à Marion Bartoli et à son entourage, ça fait du bien aussi à tout le tennis français, tout le tennis féminin français, qui avait bien besoin comme ça d'un petit bol d'oxygène, d'un rayon de soleil que lui apporte aujourd'hui Marion.
Oui, tout à fait, mais vous savez, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir qu'on a Marion aujourd'hui en finale, mais que derrière, il y en a trois autres, hein, qui ont progressé très rapidement, hein. Je pense bien sûr à Alizé Cornet, qui est revenue et qui est tout près du top 20 maintenant. Je pense à Kristina Mladenovic, hein, qui est rentrée dans les 50 premières, et puis à la petite Garcia, très jeune aujourd'hui, qui a à peine 20 ans et qui est aujourd'hui aux alentours aussi de la 80e place mondiale. Donc ça, il y a vraiment là des jeunes filles, hein, qui sont très jeunes et qui peuvent vraiment tout d'un coup nous faire beaucoup de de nous donner beaucoup de plaisir au niveau de la Fed Cup.
Exactement, et avec Marion qui maintenant accepte de jouer en Fed Cup avec ses jeunes joueuses, c'est vrai que l'avenir du tennis féminin français est beaucoup plus radieux qu'il ne l'était encore il y a quelques temps. Merci beaucoup Patrice en tous les cas, et on va encourager Marion, ce sera samedi, et on sera tous derrière elle évidemment pour cette victoire. Merci Patrice Ajelauer.
Merci.
À bientôt. Patrice Ajelauer, ancien directeur technique national et ancien entraîneur de Yannick Noah. Il était à ses côtés en 1983 lorsque Yannick a remporté le tournoi de Roland-Garros. Information donc de la journée. Marion Bartoli qualifié pour la finale de Wimbledon. C'est pas rien tout ça. Maintenant, eh bien, place au tour. Place à la sixième étape du Tour de France entre Aix-en-Provence et Montpellier. Il reste un peu moins de 100 km à parcourir. La situation de course est assez claire car il n'y a pas d'échappée. Il n'y a plus d'échappée. Mais il y a en revanche de la baston. On va tout de suite faire le point sur la course. Fred Adam est là. C'est le top course.
RMC Top Course.
Monsieur Fred.
Avec 91 km à parcourir et donc plus aucune difficulté puisque la côte des Baux de Provence a été franchie il y a quelques instants dans les Alpilles entre Aix-en-Provence et Montpellier. 91 km à parcourir sous les platanes mais surtout dans le vent, et le vent qui explique que Konstantin Siyoutsou soit passé en tête de la seule difficulté du jour. Siyoutsou, c'est un coéquipier de Christopher Froome, membre de l'équipe Sky. Il emmenait le peloton qui est toujours conduit par les maillots noirs et bleus de la formation du grandissime favori Christopher Froome, qui rivalise avec les Saxo Tinkoff de Contador. On s'explique parce qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui en direction de Montpellier.
Et puis Fred, information qui nous vient de l'arrière, Nasser Bouhanni vient de mettre pied à terre.
Oui, il galérait depuis hier et depuis plusieurs jours même. Il était tombé le premier jour vers Bastia, il avait pris un coup de chaud en direction de Calvi. Hier, il avait passé une petite partie de la journée à l'arrière avant de recoller et de passer tant bien que mal le col de la Gineste avant de chuter dans le sprint à Marseille. Aujourd'hui, c'en était trop. Lui qui est victime, affaibli par une gastro-entérite, qui est tombé. Il n'en pouvait plus. Il galérait depuis une trentaine de kilomètres dans les voitures. Cette fois, il comptait plus de 5 minutes de retard sur un peloton qui roule à vive allure. Aucun moyen de rentrer.
Ouais,
et
il était trop loin.
De grandes chances d'aggraver son cas même.
Exactement. Il a sans doute pris la bonne décision. Cyril Guimard est avec nous dans la tribune commentateur. Cyril, c'était la meilleure solution. Il n'y avait pas d'autre solution pour Nasser Bouhanni. Faire 90 km tout seul, largué par le peloton, de toute façon il serait sans doute arrivé hors délai aujourd'hui, hein.
Oui, il est évident que dans la situation où il se trouve, la chute d'hier, qui a été une chute vraiment très, très dure, hein, très spectaculaire aussi, et puis cette dysenterie qu'il a depuis 4 jours font que il ne peut pas aller plus loin. Il va arriver là au contrôle de ravitaillement, il va arrêter. De toute façon, il ne serait pas rentré dans les délais. D'ailleurs, on a fait attendre personne, on a seulement espéré un peu un miracle. Mais les miracles dans ce genre de situation, ça n'arrive pas ou ça n'arrive plus. Mm-hmm. Donc l'abandon était prévisible ce matin. Dès qu'on l'a vu un petit peu en difficulté à l'arrière du peloton, on se doutait bien qu'il n'aurait pas été très loin. Mais le problème, c'est que dans le Tour, on reste pas à l'hôtel le matin d'une étape. On tente quand même de partir, et je suis bien placé pour en parler.
Oui, surtout, oui, parce que tu as connu ce genre de situation, et surtout lorsqu'on est coaché par Marc Madiot, qui est un dur au mal et qui l'a toujours été lorsqu'il était coureur, et qui veut exactement le même comportement de ses coureurs. Est-ce que c'est un coup dur pour l'équipe de la FDJ.fr? On sait que aujourd'hui toute l'équipe est rassemblée pour essayer de faire gagner Thibaut Pinot. Est-ce que c'est un coup dur justement pour la campagne de Thibaut Pinot dans ce Tour de France, Cyril?
Bah, sur le plan humain, c'est toujours un coup dur de perdre un coureur, surtout un coureur de la cabine du gabarit de Nasser Bouhanni, qui pouvait aller chercher des victoires d'étape. Donc aller chercher des victoires d'étape, maintenant il faudra aller les chercher à la pédale et dans la montagne ou dans des échappées qui pourraient réussir. Mais on le sait, la stratégie de l'équipe de la FDJ n'est pas d'aller dans les coups, c'est d'essayer d'aller chercher une place dans le top 10, voire dans le top 5, et d'aller chercher des victoires d'étape. Donc sur le plan humain, c'est un coup dur. Sur le plan de l'organisation de la course, non, sauf si par exemple dans les dernières étapes Thibaut Pinot se retrouve par exemple leader du Tour de France, ça fait toujours un homme de moins pour rouler. Mais le coup dur, il est surtout sur le plan plan mental, sur le plan moral, sur le plan de la dynamique de l'équipe, la dynamique du groupe.
Ouais, et pour Nasser Bouhanni, c'est évidemment un coup dur, lui qui disputait son premier Tour de France après avoir été sacré champion de France l'année dernière et après avoir remporté une étape sur Paris-Nice, c'était en début de saison, étape remportée, et au lendemain de cette étape, il avait été victime d'une chute et avait été obligé là aussi d'abandonner la course. Donc Nasser Bouhanni quitte le Tour de France, l'ancien champion de France qui disputait son premier tour. Nous allons voir où en sont les coureurs du peloton, parce qu'il semble que devant, ça n'amuse pas du tout la galerie. Nous sommes avec la moto RMC, avec Georges Quirino qui se trouve devant le peloton. Ça roule vite là, hein. C'est plus la même allure qu'en première heure de course, hein, Georges.
Oui, tout à fait, ça a accéléré un petit peu avec les Sky qui étaient aux commandes il y a quelques instants. Ce sont désormais les coureurs du maillot jaune Simon Garrant, les coureurs de la formation Orica Greenedge qui ont pris les commandes, alors que l'on vient de traverser Tarascon, on vient de traverser évidemment le Rhône, le fleuve, et nous rentrons dans Beaucaire, et dans quelques instants les coureurs qui vont pouvoir se ravitailler et qui ont pu voir, lorsque nous étions sur la plaine tout à l'heure sur leur droite, eh bien le Mont Chauve, le Mont Ventoux qu'ils vont monter lors de l'étape du 14 juillet, le Mont Ventoux, qui sera un théâtre, un gros combat entre les favoris qui ont été piégés déjà pour certains d'entre eux aujourd'hui. Il y avait beaucoup de vent lorsque nous étions dans la plaine avant de monter, de rentrer dans Tarascon, un vent de face, et il y a eu des chutes dans le peloton, et notamment Joaquim Rodriguez, le leader de la formation Katiusha Purito, qui est tombé au sol. Il est rentré dans le peloton, mais en tous les cas on constate que ce vent qui était de face tout à l'heure est en train de perturber le peloton. Il y a une grosse nervosité, les organisateurs de la course qui ont donc demandé aux motophotographes, aux directeurs sportifs et également aux motoradio comme nous de ne pas se mettre derrière le peloton, car il sera désormais impossible de dépasser à cause de ce vent qui rend le peloton très nerveux pour des raisons de sécurité. On parle beaucoup de sécurité aujourd'hui sur le Tour à cause de ce vent qui va certainement jouer un rôle dans cette étape. Alors que le peloton à l'instant arrive ici à Beaucaire dans la zone de ravitaillement, il fait très chaud, on va pouvoir récupérer quelques bidons et quelques barres énergétiques.
Le peloton qui est énervé, le peloton
Christophe.
Oui,
il faut savoir, et c'est pour ça que le peloton s'est un petit peu excité depuis quelques kilomètres, que l'allure a augmenté, qu'on voit les équipes de leaders frotter, parce que il y a le contrôle de ravitaillement, mais c'est pas tout à fait à cause de cela, parce qu'en principe on prend plutôt son temps aujourd'hui au contrôle de ravitaillement. C'est que nous sommes à Tarascon, et qu'à Tarascon nous allons tourner pratiquement à 90 degrés à gauche, et que là on va prendre un vent de côté, voire un vent de trois quarts arrière, et là ça peut partir en bordure, et c'est pour cela que vous voyez les équipes des leaders, y compris celle de Cavendish bien sûr, des équipes de sprinters également, se battre en tête de peloton, et ça roule très très vite.
Ah oui, ça roule très très vite, Fred, avec notamment le français Sylvain Chavanel, reconnaissable, oui, avec son vélo orange qui a été hier un formidable équipier pour Cavendish et qui prend le commandement du peloton.
Avec également les Movistar, les Sky, on en a parlé, les Saxo Tinkoff d'Alberto Contador sont là aussi. C'est une explication entre grands à 85 km de l'arrivée à Montpellier sur une étape toute plate. On voit également le maillot jaune Simon Gerrans. Personne ne veut perdre de place, personne ne veut prendre le risque d'être pris dans une chute qui interviendrait à la hauteur des 20e ou du 30e coureur, et tout le monde évidemment en mémoire 2009, l'étape vers la Grande Motte, c'était exactement sur ces routes, en pleine Camargue, une Camargue battue par le vent en 2009, on s'en souvient, alors qu'il cohabitait au sein de l'équipe Astana, Lance Armstrong et Alberto Contador s'était livré à une lutte intestine, et Alberto Contador avait perdu une bonne grosse poignée de secondes sur Lance Armstrong, l'Américain, le Texan, qui avait joué un coup pendable à son équipier.
Ça avait mis l'ambiance dans l'équipe ce jour-là. Hein.
Avant que tout cela rentre dans l'ordre en montagne, à la pédale.
À la pédale. Alberto Contador, que tu as rencontré ce matin, Georges, en tous les cas son directeur sportif, est-ce qu'il était inquiet justement avant le départ de cette sixième étape?
Et évidemment qu'on a parlé de cet épisode de 2009 avec Philippe Mauduit, le directeur sportif d'Alberto Contador au sein de l'équipe Saxo Bank. Il nous a dit dans un sourire, Philippe Mauduit, oh non, Alberto n'a pas oublié cette étape de 2009. Et évidemment, aujourd'hui, il ne compte pas se faire piéger. Parmi les consignes que pensait donner Philippe Mauduit ce matin, c'était en cas de vent, de ce vent dont parlait Cyril tout à l'heure, qui pourrait provoquer des bordures, ce sera à bloc, à bloc, à bloc. tous devant pour que Alberto ne se fasse pas piéger. Donc on a prévu le coup aujourd'hui, c'est concentration maximale au sein de l'équipe Saxo Bank pour que le pistolero ne se fasse pas encore piéger sur les routes du Gard.
Ok, donc Alberto Contador qui doit se méfier évidemment aujourd'hui sur cette étape. Il y a des coups à faire peut-être pour les uns et les autres. Tout de suite, on va jouer sur RMC, on va parier dans cette sixième étape.
Les paris RMC. Tour de France.
Voilà, vite avant que les bordures ne se forment et que le peloton change sa situation par rapport au vent. Benji, bonjour.
Salut Christophe, salut à tous.
Alors, on récapitule quels sont les principaux favoris pour cette étape et les paris des uns et des autres.
Oui, mais le favori, Christophe, c'est Marc Cavendish, puisqu'on s'est fait avoir une fois hier, on s'est fait doubler par Virginie Fulpin. Ça a un petit peu énervé tout le monde, puisque vous avez tous joué Cavendish, excepté le druide qui a joué lui Greipel. Et du
moi
coup,
aussi.
Tu as suivi la route du druide intelligemment, avec la tactique que l'on connaît de Christophe.
Il faut sauter dans les roues, hein, tu sais, avec des coursiers pareils, il faut de temps en temps tenter son coup, tenter sa chance.
Et ça n'a pas beaucoup changé les cotes, Christophe. C'est
d'accord.
Quasiment du pari au même, 1,60 Cavendish, 5,40 pour Greipel. Et je crois qu'il y a un certain Fred Adam qui vous a collé avec Cyril, puisqu'il joue également la victoire de l'Allemand.
D'accord, Fred, oui, Greipel.
Je ne savais pas hein, que,
le
que vous rejoignez là au.
Ah oui, tu voulais être un peu original et boum, t'es tombé sur un os.
Raté. À mon avis, la mauvaise quand même, Greipel, d'avoir terminé derrière Cavendish encore hier. André Greipel qui avait remporté, on s'en souvient, 3 étapes l'an passé et qui là va devoir faire face à un vent contraire. Comme tous les sprinteurs sur la ligne d'arrivée, il faudra se découvrir au dernier moment. A priori, ce n'est pas forcément un avantage pour lui, le sur puissant sprinter allemand de l'équipe Lotto Bellisol. Et c'est vrai qu'une fois de plus, Marc Cavendish et son petit gabarit, son allure très profilée, pourraient sortir de la boîte au dernier moment. Il a tous les atouts, Cavendish, pour s'imposer encore ici.
A noter tout à l'heure que lors du sprint intermédiaire, Greipel est passé devant Cavendish, mais enfin Cavendish n'a pas vraiment complètement disputé le sprint. On sait que c'est ce qui l'importe surtout, ce sont les victoires d'étape. Donc, on verra ça. Georges, ton pronostic pour la victoire dans cette sixième étape.
Moi je donnerais André Greipel, ouais, comme tu l'as signalé.
D'accord.
Qui est passé en tête à l'intermédiaire, et en plus avec l'équipe Lotto Bellisol qui a perdu son leader Jürgen Vandenbroeck, on imagine qu'ils vont aider au maximum André Greipel, le gorille aujourd'hui.
D'accord, donc on est presque à égalité, hein. Il y a le camp Greipel et le camp Cavendish, donc ça ne devrait pas échapper à l'un de ces deux hommes, à moins qu'un baroudeur parvienne à fausser compagnie au peloton d'ici quelques minutes, mais ce sera difficile vu l'allure à laquelle le peloton roule actuellement. Merci Benji, on te retrouve tout à l'heure pour récapituler ses paris.
PMU.fr, paris sportifs, paris hippiques, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Après les paris, on va voir dans quel état est la route.
Il est où cette idée?
Bon cas là de l'Assemblée des départements de France qui est sur la route là avec ses motos fraîcheurs, non pas avec ses motos fraîcheurs, avec son gros Léon avec son camion fraîcheur et qui arrose les routes parce que ça chauffe aujourd'hui hein, André, ça chauffe sur les têtes des coureurs, ça chauffe également sur le bitume.
Alors ça chauffe sur le bitume qui est à plus de 50 degrés, mais ça tient plutôt bien. On s'attendait plutôt à pire, nous, en termes de reçuage. Hein. Ça tient, donc on n'arrose pas trop, un petit peu de flotte ici ou là, mais pas grand-chose. En revanche, le problème pour nous, c'est le vent qui souffle, vous l'avez dit et je vous le confirme, qui souffle fort et qui nous arrache à peu près un panneau sur deux, un panneau sur trois, sur les ronds-points, sur les rétrécissements, sur les ralentisseurs. Il y en avait toute une ribambelle aujourd'hui, 46 ronds-points, 11 rétrécissements et une grosse série de ralentisseurs. Et donc on a des panneaux qui finissent dans le public, on a des tas de trucs comme ça. Et nos équipes qui ont posé ce matin dès 4h30 du matin, eh bien à ma foi, le travail est quasiment à refaire derrière pour une partie, puisque le vent a arraché tout ça, plus les flèches du parcours Tour de France. Donc c'est un peu compliqué aujourd'hui pour nous.
Ah oui, c'est un peu compliqué pour tout le monde. Il fait chaud, il fait beau, il y a du monde, il y a du vent et, et tout ça, ça fait du boulot. Hein. Ça fait du boulot pour les équipes du département. C'est pas toujours facile hein, ce métier. Autrement, pas de difficultés majeures. Il y a des ronds-points, encore beaucoup de ronds-points. On est toujours dans le sud de la France.
Oui. Hein, ça change pas. C'est un peu comme d'habitude. Hein, quand on est dans ces départements du sud, c'est toujours la même histoire avec du rond-point en pagaille. En termes de difficultés, non, les routes sont plutôt larges. De toute façon, vous l'avez dit, hein, c'est plat comme la main dans la deuxième partie du tracé. C'est dramatiquement plein même. Et donc la route serpente tranquillement de village en village. Il y fait chaud, il y a du monde. Là, les gens sont plutôt un peu cramés par le soleil. Et l'état des routes est tout à fait acceptable sur des chaussées assez larges pour voir passer à peu près sans encombre le peloton, sauf à ce qu'il y en a quelques-uns qui chutent, comme c'est déjà arrivé. J'entendais ça tout à l'heure.
Très bien. Merci beaucoup, André. On se retrouve demain, évidemment, pour l'étape suivante. Ce sera la 7e demain. Et puis, s'il se passe quelque chose, tu n'hésites pas à nous interrompre et à venir mettre ton petit grain de sel dans l'histoire. De sable. Ton grain de bitume, ton grain de goudron avec nous. Allez, salut André.
À tout à l'heure.
79 km, nouveau point sur la course, puisque nous nous approchons petit à petit de Montpellier. Fred Adam, c'est le top course.
RMC, top course.
Le peloton groupé sur les routes ensoleillées mais ventées du Gard aujourd'hui entre Aix-en-Provence et Montpellier. Un peloton qui pour l'instant reste vigilant parce qu'il y a un vent de côté qui pourrait fausser la course et qui pourrait provoquer des cassures. Le rythme s'est un peu abaissé mais personne n'en a profité pour tenter de s'échapper. On souffle un peu après avoir récupéré quelques musettes dans la zone de ravitaillement ou après auprès des directeurs sportifs. Rappelons l'abandon aujourd'hui de Nasser Bouhanni il y a quelques kilomètres, lui qui souffrait d'une gastro-entérite, qui avait chuté à plusieurs reprises depuis le départ de Porto Vecchio. Nasser Bouhanni, le sprinteur de la FDJ.fr, qui ne disputera pas l'arrivée ici devant le stade Yves du Manoir. 78 kilomètres de l'arrivée, l'avant du peloton est occupé par les équipes de leaders, les Sky, les Saxo, les Orica Green Edge, mais aussi les BMC de Cadel Evans et TJ Van Garderen.
Il est 15h46, vous êtes à l'écoute d'RMC. Et on se retrouve dans un instant pour la suite de l'intégral tour. Je vous rappelle l'information principale de ce début d'après-midi. Elle ne concerne pas le cyclisme mais le tennis, avec la qualification pour la finale du tournoi de Wimbledon d'une certaine Marion Bartoli, qui n'a fait qu'une bouchée cet après-midi de son adversaire belge. Qualification donc pour la finale qui aura lieu samedi après-midi et que vous suivrez sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à 18h, intégral tour, Christophe Cessieux.
15h50, vous êtes sur RMC, nous sommes en plein cœur de l'après-midi, les cigales chantent, le soleil tape, il fait chaud aujourd'hui sur la route du tour. C'est pas le cas pour tout le monde en France, mais vous inquiétez pas, il paraît que l'été arrive enfin dans quelques jours. Ici, il est bien installé sur Montpellier, où nous assistons donc à la 6e étape de ce Tour de France. Départ ce matin d'Aix-en-Provence, arrivé tout à l'heure à Montpellier, dans 74 km encore. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le peloton n'a pas décidé de lambiner en route. Il veut vite arriver à l'hôtel, histoire de faire des massages, peut-être de prendre un bain. Non, il faut surtout pas prendre de bain dans la piscine lorsqu'on est coureur cycliste. On va faire un nouveau point complet de la situation de course. Elle est tout de même assez simple. Fred Adam va donc vous faire tout ça. C'est le top course.
RMC Top Course.
74 km à parcourir sur les routes du Gard et de l'Hérault, plate comme la main, ensoleillée mais aussi ventée aujourd'hui, ce qui explique que le peloton soit groupé. Le vent est de trois quarts défavorable en ce moment, mais il balaie les plaines de la Camargue et les favoris sont particulièrement vigilants. Ils se ravitaillent en ce moment, mais ils restent à l'avant du peloton. On aperçoit Christopher Froome en 5e position, Simon Gerrans 4e dans la route, ses équipiers de l'équipe Orica Green Edge. Alberto Contador est également là. Cadel Evans, Van Garderen, tous veulent être au premier plan pour éviter les cassures. Et tous se souviennent évidemment de la course de bordure qui avait eu lieu il y a 4 ans sur ces mêmes routes en direction de la Grande Motte. La Grande Motte où un certain Mark Cavendish s'était imposé en 2009. Nous sommes aujourd'hui à Montpellier devant le stade Yves du Manoir. Là même où le Britannique s'était imposé il y a 2 ans également. Tous les ingrédients sont réunis pour que celui qui a remporté hier sa 24e étape sur le Tour à Marseille en remporte une 25e tout à l'heure.
Oui, parce que là, au rythme où ça va, de toute façon, on voit mal comment un baroudeur pourrait sortir du plan. peloton, Fred. Hein. C'est quasiment impossible à cette allure-là.
Et le vent est défavorable. Non, il n'y aura pas, a priori, de baroudeur capable d'aller chercher quoi que ce soit, sauf un énorme changement de physionomie de la course. Mais lorsqu'une étape part comme ça, 70 km de l'arrivée, Cyril, c'est rare que ça, que ça se relève. Ça peut partir comme ça en début d'étape. Et puis, à un moment, tout le monde va avoir besoin de souffler et le peloton va se relever. Oui. Mais là, on est trop près de l'arrivée pour que ça se relève. On est bien d'accord.
Oui, non, maintenant, la course est trop nerveuse. Le vent est trop dangereux et on voit vraiment un marquage à la culotte de toutes les équipes. Hein. Ce qui fait que le train ne peut pas baisser. Il ne peut pas y avoir d'échappés qui peuvent partir car le train est trop rapide pour pouvoir tenter quelque chose. Et puis, entre les leaders, le marquage est tel que personne, pour l'instant, ne peut se faire surprendre. Mais il reste quand même une heure et demie de course, voire un peu plus. Et bien sur cette heure et demie, il y a bien un moment où il risque de se passer quelque chose. Et dans une course cycliste, c'est au moment où on ne s'y attend le moins.
Et pour vous donner une idée, les principaux favoris, ou même la grande majorité des coureurs, a zappé le ravitaillement tout à l'heure, il y a une dizaine de kilomètres. Du coup, le travail des équipiers aujourd'hui, dans cette deuxième moitié d'étape, est primordial. Ce sont eux qui ont pris le temps de baisser le pied pour prendre les musettes et ils sont chargés, c'est ça le boulot d'un équipier, de remonter à l'avant du peloton pour distribuer bananes, barres céréales, bidons aux favoris qui restent dans les 10, 20, 30 premières places. Tout cela passe par d'autres équipiers relais. Le manège est très intéressant à voir et c'est comme cela que l'on voit Alberto Contador avaler une banane en seulement 3 bouchées. Au niveau digestion, les estomacs sont bien accrochés, ils sont particulièrement adaptés à ce genre de nutrition, mais quand même c'est surprenant de voir des coureurs ne pas prendre le temps de manger du tout et de parer au plus pressé. On mange utile sur le vélo.
Et on a vu tout à l'heure les porteurs d'eau, notamment un porteur d'eau de la formation Euskaltel
et pas n'importe
qui ressemblait
lequel,
à un bibin d'homme.
C'était le leader de l'équipe Euskaltel.
Oui, donc c'est pas un bordeur d'eau normalement.
Le grimpeur Igor Anton, mais qui se dit aujourd'hui je n'ai pas grand chose à faire. Moi le petit grimpeur crevette qui ne vise même pas le général mais une victoire en montagne, et bien je vais faire le boulot pour mes copains, pour mon sprinter Lobato, un coureur basque qui va vite. Il est remonté sur la droite de la route avec, sans exagérer, une quinzaine de bidons sous le maillot, dans le cuissard. Il a doublé de volume, Igor Anton, un bibin d'homme, tout petit bibin d'homme sur son vélo.
Un petit bibin d'homme orange sur les routes du Tour en direction de Montpellier. Il ne ressemble pas à un bibin d'homme, loin de là. C'est Georges Quirino sur la moto RMC. C'est plutôt du genre crevette. Hein. Il fait lui aussi, il ressemble plutôt à un grimpeur colombien, non ?
Faudrait qu'il se mette au vélo, quoi.
Oui, c'est sûr que j'en sens plus à un grimpeur colombien qui a pas de tanoc, qui est un petit peu plus embourbé, bien évidemment.
Embourbé
dans mes propos,
voilà.
C'est ça.
Voilà. On n'est pas sur Paris-Roubaix pourtant, hein, c'est ça qu'ici.
Ce peloton, on est devant ce peloton où désormais le vent est favorable et dans le dos des coureurs, le soleil qui tape énormément. On voit sur le bord de la route énormément de supporters torse nu et on parlait des ravitaillements et de ces coureurs qui viennent aider leur leader. On voit au-dessus du peloton actuellement des scènes un petit peu rigolotes. On voit des bidons qui sautent dans tous les sens, des bidons qui sont jetés partout au-dessus du peloton. Évidemment, on se réhydrate parce qu'il fait très chaud aujourd'hui sur les routes du Tour, au milieu des champs de vignes, au milieu des pins. C'est un décor typique du sud de la France. Et pour l'instant, ce sont les casques noirs et bleus de la formation Sky que l'on distingue à l'avant de la course, avec Christopher Froome qui est aux avant-postes. On voit également les coureurs du maillot jaune de l'équipe Orica Green Edge qui est bien présent devant. On voit également quelques coureurs de la formation Saxo Bank et Alberto Contador également. On est désormais un petit peu au milieu des arbres, donc un petit peu plus à l'abri du vent. Ce vent qui s'ouvre.
Oui, Georges, on va devoir s'interrompre. Tu nous raconteras un petit peu tout ça juste après les infos de 16h. Mais là, on est en retard. Donc,
il a perdu sa montre sur la route.
Il a perdu sa montre. Il a oublié.
Il veut pas que ça fasse marque de bronzage.
Oui, évidemment.
J'ai vécu ça aussi.
Oui, c'est ça, les gravures de mode. Qu'est-ce que vous voulez ? Allez, on se retrouve dans quelques instants. Il est 15h57, juste après les infos de 16h. Il pourra tout nous raconter, Georges. Vous inquiétez pas, il voit tout sur le bord de la route. À tout de suite.
RMC Intégral Tour avec Le Parisien et Aujourd'hui en France. Christophe Cessieux.
Il fait beau, il fait chaud sur la route du Tour aujourd'hui entre Aix-en-Provence et Montpellier avec cette sixième étape du Tour de France. 176 km 500, il reste un petit peu plus de 60 km à parcourir avant l'arrivée à Montpellier et le peloton est toujours groupé même s'il va tout de même à vive allure en direction de Montpellier. Fred, on fait un nouveau point sur la course même si là il n'y a pas grand chose de nouveau depuis tout à l'heure. C'est le top course.
RMC Top Course.
61 km de l'arrivée sur les routes du Gard en direction de Montpellier. On est dans la Camargue et qui dit Camargue dit vent. Des rafales sont annoncées par Météo France entre 65 et 75 km/h. Du coup, effectivement, le peloton roule à vive allure avec à l'avant-poste des équipes de favoris, les Orica du maillot jaune Simon Gerrans, les Sky de Christopher Froome, les Saxo Tinkoff de Contador. On voit les Movistar de Valverde aussi et les BMC de Cadet Evans. Vigilance absolue sur les routes bordées de cyprès et de platanes sous un grand soleil à 60 km de l'arrivée à Montpellier.
Allez, c'est l'heure du jeu Tour de France RMC. Aujourd'hui, je vous offre la possibilité de gagner le jeu Pro Cycling Manager, simulation officielle du Tour de France sur PC, le jeu de société L'Échappée Infernale et puis le livre Le Contour de nos amis Serge Lager et Claude Maignan. Et puis, surtout, ouvrez bien vos oreilles, je vous offre votre place top VIP pour assister au contre-la-montre entre Avranches et le Mont-Saint-Michel qui aura lieu la semaine prochaine, ce sera mercredi prochain. Aller-retour en hélico depuis Paris, suivi de l'étape dans une voiture de l'organisation, déjeuner et accueil dans le car VIP sur la ligne d'arrivée. Bref, une journée de rêve pour tenter de gagner ce superbe pack cadeau. Vous envoyez le mot-clé RMC par SMS au 7-32-16. Bonne chance. La moto RMC à 60 km de l'arrivée, la moto avec Georges Quirino et Marc Compe au guidon. Alors, messieurs, qu'est-ce qui se passe? Ça va vite, hein? Ça va vite, on n'a pas le temps de s'arrêter chasser la canette aujourd'hui, hein?
Non, on n'a pas le temps du tout, surtout que le vent est désormais favorable, trois quarts favorable pour le peloton, sous une chaleur toujours aussi importante sur ces routes de Camargue. On a bien pu constater qu'on était en Camargue avec la présence de cavaliers sur leurs chevaux sur le bord de la route tout à l'heure, et ce peloton est toujours emmené à vive allure. On voit notamment les coureurs de la formation Sky qui sont toujours présents, également les coureurs de l'équipe Orica Green Edge avec le maillot jaune de Simon Gerrans qui est facilement visible à l'avant de ce peloton. On est en plein cœur des vignes actuellement et évidemment il y a beaucoup de camping-cars qui se sont posés là avec les nombreux supporters qui sont venus malgré la canicule, le temps caniculaire aujourd'hui pour apercevoir les coureurs du Tour de France qui sont toujours groupés, on le rappelle, depuis le kilomètre 54 hein, quand même, alors qu'on est au kilomètre 118 actuellement. Donc pour l'instant c'est un peloton qui accélère, on le voit d'ailleurs parce qu'on nous demande d'aller un petit peu plus vite. C'est les coureurs australiens de l'équipe Orica Green Edge qui sont aux commandes désormais.
Est-ce qu'on a une idée de la température qu'il fait aujourd'hui sur la moto? Il a un thermomètre l'ami Marco ou non? Non, il n'y a même pas de thermomètre sur
cette moto. Non, c'est pas encore la moto 2.0. Hein. On n'a pas encore mis de thermomètre dessus, donc on essaiera de la mettre
pourtant,
peut-être demain.
Il est
tout transpire. Tillé. Donc ça veut dire
qu'il est tout plié, mais pas de ce côté-là.
C'est tout ce qu'on peut dire.
D'accord. Donc il fait. On mettra
il a le manche, il a le manche. Il est à la barre, ce que vous voulez.
Il a le manche, mais il n'a pas la température. Et il fait chaud sur la moto. Cyril, il fait chaud également en tribune commentateur. Il est là. Il est torse nu, Cyril, cet après-midi? Non, quand même pas. Si, torse nu.
Non. Non, non, vous savez d'ailleurs que pour lutter contre la chaleur, il ne faut pas être nu, mais il faut être bien couvert.
Il faut être bien couvert, d'accord.
Eh oui.
On va mettre les bonnets.
Contrairement à ce que vous avez vu des gens dans le Sahara se promener torse nu.
C'est vrai, c'est vrai, tu as raison.
Alors, concernant la vitesse,
Sahara Pitkowski.
Oui, vous parliez tout à l'heure qu'on était en retard sur la moyenne la plus faible. Eh bien, nous sommes revenus maintenant dans les temps compte tenu de la vitesse du peloton. Voilà, et on risque même d'arriver avec de l'avance.
58 km de l'arrivée, effectivement, ça va vite et on ne se relève pas. Il y a eu un coup de stress à l'approche de la seule difficulté du jour, la côte des Baux de Provence, à tel point qu'aucun coureur concerné par le maillot à pois ne s'est battu aujourd'hui pour aller chercher le petit point qui était attribué là-haut, en haut de cette côte classée en quatrième catégorie. C'est un équipier de Christopher Froome, le Biélorusse Konstantin Siusu, qui est passé en tête au sommet de la seule difficulté répertoriée au Grand Prix de la Montagne. Et on n'a pas relâché la pression. Ce n'était pas un coup de panique. C'est bel et bien organisé. Les équipes de favoris se souviennent que trop bien de la mésaventure vécue en 2009 par Alberto Contador, qui avait lâché 40 secondes sur une première bordure au sein de laquelle, on s'en souvient, figurait notamment son cher coéquipier Lance Armstrong.
Alors on va réexpliquer pour ceux qui ne connaissent pas forcément le jargon du peloton, le jargon cycliste, pour ceux qui découvrent l'Intégral Tour cette année, même si ça fait très longtemps que le druide y officie. Cyril, tu vas nous expliquer ce qu'est exactement une bordure et comment on fabrique une bordure et à quoi ça sert finalement pour les coureurs du peloton. Ah, il faut essayer d'être un peu didactique.
Oui, alors le vélo, vous savez, je dis toujours que c'est de la voile et que l'un des problèmes du coureur cycliste, c'est justement de s'abriter du vent et surtout d'aller chercher l'aspiration. Tant que vous avez un banc de face, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est là où les courses sont le plus faciles, car une fois que vous êtes en deuxième rideau, vous ne pédalez pratiquement plus par rapport à l'homme qui est devant vous. Lorsque vous avez le vent de côté, là c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire qu'il faut faire des formations, ce qu'on appelle des éventails, où chaque coureur, en fonction de l'angle du vent, va venir se placer soit au niveau du moyeu de la roue arrière, soit au niveau du pédalier, et ainsi de suite, comme ça, sur toute la largeur de la route. Le problème, c'est que si vous avez un coureur qui n'arrive pas à rentrer dans l'éventail, eh bien, il ne peut pas résister, il est éjecté. Et tout le jeu, lorsqu'il y a du vent comme ça, c'est de monter une formation. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'une formation avec un vent, par exemple, de 3/4 arrière, eh bien, prend de la vitesse, un petit peu comme les bateaux, hein, lorsque vous tirez bien sur la voile avec un vent de 3/4, eh bien, ça vous donne une puissance extraordinaire sur le bateau. Eh bien, là, c'est un petit peu la même chose. Ce qui fait que si vous vous retrouvez tout seul ou à deux ou trois, eh bien, vous êtes éjecté comme des malpropres, c'est le moins que l'on puisse dire. Et là, les coureurs sont très, très inquiets. C'est pour ça que, en tête de peloton, on a l'impression que l'arrivée est dans 3 km et pourtant elle est encore à plus de 55 km de l'arrivée, mais le moindre piège, le moindre virage légèrement à droite ou à gauche peut faire en sorte que une bordure se forme et on va resserrer et mettre tout le monde ce qu'on appelle dans la patinette, et là il y en aura partout.
Le cyclisme, c'est de la voile, disait un certain grand directeur sportif des dernières décennies.
Ouais.
Cyril Guimard d'Ixit, évidemment.
Évidemment. Cyril, on peut perdre beaucoup de plumes dans un coup de bordure.
Ah, plus que dans la montée d'un col.
Plus que dans la montée d'un col.
Ah, si vous avez une bordure d'une douzaine ou 15 coureurs qui est parti, et si vous êtes tout seul sur, on va dire 30 km, eh bien, vous allez perdre à peu près entre 10 et 15 minutes, c'est-à-dire plus que la montée d'un col.
Ah ouais, effectivement. Donc, attention.
Vous savez, le problème, il est simple, hein. Sur un vélo, vous avez un couple moteur, hein, c'est vos deux pédales là, que vous actionnez autour d'un pédalier. Vous avez une chaîne qui transmet la puissance que vous développez à des petits pignons sur la roue arrière, et cette roue arrière vous propulse. Donc vous avez deux couples résistants, il y en a un petit peu plus, mais surtout deux. Un, c'est la résistance à l'air, ou éventuellement des fois l'air peut vous aider. Et puis c'est l'élévation de la masse, c'est-à-dire monter votre poids lorsque vous êtes dans une côte ou dans un col. Voilà les deux points de résistance à l'avancement d'un coureur cycliste. Et lorsqu'on est sur le plat, eh bien, on peut dire que 90-92% c'est uniquement le vent.
Très bien, très bien. Ben voilà, nous en savons plus, et vous qui nous écoutez sur RMC, vous en savez plus grâce aux explications du druide Georges Quirino. Lui est sur la moto. T'as bien compris, hein? T'as tout compris, Georges. Tu savais ce qu'était une bordure, évidemment.
Ah, j'ai tout noté, j'ai pris un grand carnet et j'ai tout noté. Alors, du coup, là, j'ai tout ce qu'il faut pour comprendre ce qui va se passer dans les derniers kilomètres. En tous les cas, comme l'expliquait Cyril, on a l'impression que c'est une fin de course, là, tellement le peloton est nerveux. On est vraiment juste devant le peloton qui est une trentaine de mètres derrière nous, et on peut effectivement voir à quel point ça joue des coudes, mais véritablement des coudes et des épaules pour se replacer à l'avant du peloton. On voit notamment sur la. Là, ce sont les coureurs de l'équipe Orica Green Edge, du maillot jaune Simon Gerrans qui sont devant, mais on voit sur la toute gauche de la route les coéquipiers d'Alberto Contador et l'Espagnol juste derrière un de ses coéquipiers qui tente de se replacer, ou en tous les cas qui se mettent véritablement en position pour que leur leader soit le mieux placé possible. On voit les Belkin, les Argos également qui sont là, et les les coureurs de l'équipe BMC. Christopher Froome également dans les premières positions. Sa bataille, vraiment, c'est une lutte de tous les instants. Cela se voit pour se remplacer dans les premières positions.
Très bien. Alors, s'il y en a un qui connaît bien les coups de bordure pour s'être piégé quand même à environ 25 fois sur les 37 tours qu'il a disputés, c'est bien notre ami Eros. Et il est là, avec nous.
Oui, mais on va rappeler effectivement qu'aujourd'hui, ça a fait des dégâts dans le peloton, puisque Nasser Bouhanni, le sprinter de la FDJ.fr, qui était handicapé depuis plusieurs étapes, a dû mettre pied à terre. Mais il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Il y a eu Jürgen Vandenbroeck, deux fois quatrième du Tour de France, qui n'est pas parti ce matin d'Aix-en-Provence. Et un coureur, un chevronné coureur, a dû lui aussi renoncer sur cette sixième étape. C'était Eros Rastafumeto, effectivement. Eros qui, lui, contrairement à la majorité des coureurs, n'est pas obligé de monter dans la voiture balai ou dans l'ambulance de l'organisation de course, qui est attendu par ses sbires et qui vient
on va pas citer la marque,
effectivement, mais la voiture est rose fluo et elle arrive toute sirène hurlante sur la ligne d'arrivée. Faites place, Eros a quitté le peloton, mais merci beaucoup Eros
Il réserve ses premières déclarations à RMC. C'est un plaisir, Eros, de t'accueillir ici dans ce petit camion. Pas trop déçu d'abandonner. C'était ton 37e tour, c'est ça?
37e tour, exactement. Mais vous savez, la priorité, c'est toujours pour RMC. Avec tout le pognon que vous me donnez pour être sponsor principal, c'est un peu normal. Et on va la mentionner, la voiture, hein, parce que la voiture, c'est l'Alfa Eros. C'est modèle personnalisé. Ah ouais. Très, très beau. Non, un mot sur la course. Effectivement, je ne suis pas parti ce matin. J'avais un peu mal aux fesses.
C'est quoi? C'est une chute?
Parce que c'est l'Italia, non? C'est l'Italia. Oui. C'est le sponsor. Et autant vous me donnez beaucoup d'argent, c'est l'Italia plus d'argent pour me donner pour moi. Donc, pas de sel. Et donc, mal aux fesses.
Ça, le vélo sans la selle, c'est
pourtant,
difficile.
Et pourtant, on a là un coureur expérimenté qui a multiplié les performances.
Mais c'est pour ça qu'il est souvent danseuse aussi. Parce que sans selle, ça commence à faire un peu mal au bout d'un moment.
Et Rose, ça fait plusieurs années de suite. 5 parce qu'avant, vous étiez suspendu pour usage de substances.
On avait dit qu'on n'en parlerait pas. On avait dit qu'on n'en parlerait pas.
5 Tours de France consécutifs où vous êtes obligé de mettre pied à terre dès la première semaine. Vous ne raccrochez pas?
Ah non, pas du tout. En plus, j'ai parlé avec Christian Prudhomme. On est très amis avec Christian. Je lui ai dit, écoute, je m'arrête 2-3 étapes. On laisse passer les Pyrénées, c'est bien. Et comme ça, moi, je vais directement à Nantes, là, dans le Nord. Je ne connais pas très bien.
Très bien.
Et du coup, après, parce que je veux arriver quand même à Mont-Saint-Michel, il y a ma maman, mon papa, ma grand-mère. Vous vous rappelez de ma grand-mère, hein, Pinerolo, où l'aviez-vous, voilà. Et moi, à Mont-Saint-Michel, je veux arriver. Donc, je vais repartir 3 jours de calme. Je me repose, il fait beau. Les bordures, moi, pas bordurer. Et tranquille, et voilà. Là, il se déchaîne, ils se font mal aux pattes. Moi, je me fais de mes propres pattes. Donc, chacun ses pattes, quoi.
Règlement sur mesure pour Eros Rastafumeto.
Les pattes pour un Italien, c'est important, de toute façon.
Exactement. Merci beaucoup, Eros. Allez vous faire soigner, parce que c'est vrai que votre souci physique du moment réclame quelques soins particuliers.
Un petit massage.
Avec plaisir. Je peux utiliser votre douche d'un camping-car?
Faut voir avec les principes.
Oui. Parce que j'ai plus d'hôtel là pendant 3 jours. D'ailleurs, bon, on en parle tout à l'heure.
Oui, on en parle tout à l'heure. Il va falloir mettre une petite rallonge pour Eros, hein, parce que là, ça, les temps sont durs. Merci Eros. Tu reviens nous parler d'ici la fin du tour au Mont-Saint-Michel.
Hein, ah, Mont-Saint-Michel, c'est sûr.
Notre coureur préféré, notre coureur fétiche sur RMC depuis si longtemps. Il est là, il fait partie de l'histoire du Tour de France, ce garçon, hein, vraiment. Et d'ailleurs, si vous avez envie de l'encourager, n'hésitez pas à mettre des pancartes sur le bord de la route, comme il y en avait il y a quelques années, je m'en rappelle, dans l'école des Pyrénées notamment. Allez Eros, Rastafumeto, superstar. Et c'est vrai que ça fait quelques années qu'on n'en voit plus, on aimerait bien en
voir. La tradition, c'était une pancarte, un saucisson.
Ah voilà, exactement.
Le plus gros
gagnant. Une pancarte, un saucisson. Et c'est Luc Leblanc qui distribue les saucissons en plus, hein, s'il ne les a pas tous bouffés. Il est là, Lucho. Justement, on l'a retrouvé. Lui aussi, il fait partie de la légende du Tour de France. Comme Eros Rastafumeto, tu as remporté quand même plus d'étapes que Eros. Mais c'est vrai que c'est un personnage éminemment sympathique du Tour de France.
Ah, il est typique, hein. Il est, d'ailleurs, c'est vraiment un grand, grand personnage depuis, c'est son
37e.
Oui, mais moi, je le connais depuis que je suis avec RMC. Mais ceci dit, si, je me rappelle quand j'étais coureur à Otakem, il a essayé de me suivre avec Indurain et puis il a pété.
Il a pété des premiers kilomètres.
Il a pété d'entrée, hein. Depuis le début.
C'est de la montagne, c'est pas son truc.
C'est un Italien, quoi.
Eh oui, Lucho, parle-nous un petit peu de la route donc que tu as parcourue. C'est vrai qu'on est vraiment dans un paysage de sud de la France avec ces coups de bord. bordure. On les attend. Pour l'instant, il n'y en a pas eu. Hein, mais tu sens qu'il peut y en avoir une d'ici, la fin de l'étape.
Je crois pas. Non, franchement, j'ai essayé de t'appeler. D'ailleurs, en début d'étape, dès que j'ai pris la voiture, il y avait un Mistral, mais c'était quand même. Il était très très fort au départ de cette étape. Et bon, c'est vrai qu'on aurait pu penser à un moment donné que les coureurs allaient pouvoir faire des bordures. Et puis non, je crois que les coureurs ont quand même peur de ce qui va arriver sur le tour. Les Pyrénées, bien sûr, et puis surtout les
mais à force d'avoir peur, il va plus rien se passer.
Non, mais les huit derniers jours, et je pense que les équipes de sprinteurs, elles n'ont pas trop envie de, ou même les équipes de leaders, c'est plus les équipes de leaders qui pourraient éventuellement faire des bordures pour piéger certains leaders. Mais ils vont être vigilants sur la fin de parcours. Ça peut toujours essayer de bordurer, mais très honnêtement, personne n'a envie de prendre de risques. Moi, je serai directeur sportif. Je crois qu'il faut courir à un moment donné à l'ancienne. Et vu le vent qu'il y a, peut-être moins fort que le départ, il y a moyen de pouvoir faire quelque chose. Et une équipe costaud, à la limite comme la Sky ou une autre, peuvent éventuellement faire des bordures et piéger certains leaders. Regardez en 2009, hein, avec Contador et Armstrong. Hein, pourtant, ils étaient dans la même équipe, mais ça n'a pas empêché Armstrong de faire rouler ses coureurs et de piéger Contador, qui est arrivé avec un petit peu de retard sur la grande motte. Donc, ça peut
aujourd'hui,
se passer.
Tout est tellement stratégique, on ne veut pas montrer ses forces avant l'arrivée en montagne.
C'est calculé, quoi. Voilà, c'est trop calculé aujourd'hui. C'est pas à l'instinct. Je me souviens quand j'étais avec Cyril, à un moment donné, au ravitaillement, des consignes avant le ravitaillement. S'il y avait un peu de vent, on loupe le ravitaillement et allez, on fait la bordure, on attaque. Et c'est plus ce qui se passe aujourd'hui.
Il faut vraiment, Cyril, il faut vraiment être passionné de vélo aujourd'hui pour suivre cette étape, soit à la télé, soit à la radio, soit sur le bord de la route, parce qu'il se passe pas grand chose jusqu'à présent. Les gens qui sont sur le bord de la route, ils voient arriver un peloton groupé. Bon, certes, ça lambine pas en route, mais enfin, l'intérêt est quand même, somme toute, assez relatif.
Hein. Oui, vu de cette façon-là, sauf que si vous dites ça aux coureurs qui sont en train de se battre pour rester dans les premières positions, qui sont en train de frotter, et surtout les équipiers qui se font quand même un petit peu mal aux jambes, comme je disais, on a rattrapé largement maintenant le retard sur les horaires. Ceux qui sont en tête de peloton et qui se font mal aux jambes pour protéger leurs équipiers, si vous allez leur dire ça, vous aurez du mal à les interviewer jusqu'à l'arrivée des choses.
Qu'est-ce que je vais les interviewer sur quoi ? Sur le fait qu'il ne se passe rien ? Leur poser de questions à ce moment-là.
Il se passe toujours quelque chose. Laissez la course vivre, parce que pour l'instant, elle est en train de vivre. Ouais. Il va se passer des choses. Peut-être pas aujourd'hui, mais cette étape, elle est difficile.
D'ici l'arrivée à Paris, il va se passer des choses.
Vous savez, aujourd'hui, on va accumuler beaucoup de fatigue, surtout sur le plan de la concentration, sur le plan nerveux. Et puis, elle n'est pas encore finie, cette étape. Ouais. Hein. Regardez l'étape de Bastia. À 10 km.
Attention, Cyril, justement, il se passe des choses. Sagan, avec un coureur qui est retardé, incident mécanique, Fred.
C'est le maillot vert du Tour de France. Peter Sagan, le Slovaque qui cumule les places d'honneur depuis le départ du Tour de France, qui a crevé de l'arrière à 48 km de l'arrivée. Crevé de l'arrière, c'est bien un terme cycliste. Il sera attendu par ses équipiers de la formation Cannondale pour revenir et disputer probablement le sprint contre Mark Cavendish, André Greipel ou Marcel Kittel, que l'on attend en face du stade Yves du Manoir.
Qu'est-ce qui vous fait rire tous les deux là avec le show?
Crevé à l'arrière.
Oui, bon, d'accord.
Puisque vous rigolez, je vais continuer mon explication.
Oui, vas-y, mon cher Bruno.
Vas-y, on éteint nos micros. Vas-y, tu peux y aller.
Un petit sieston et on revient. Hein.
Voilà. Merci de me laisser un peu d'antenne que j'essaye d'expliquer quand même à tous nos auditeurs. L'étape de Bastia, jusqu'à 12 km de l'arrivée, il ne s'est rien passé. Et dans les 12 derniers kilomètres, on a eu une étape avec plein de rebondissements, des chutes, etc. Bien. Vous savez, vous regardez un match de foot complètement insipide. Et puis, dans les 10 dernières minutes, vous avez 3 buts et vous repartez du match en disant quel beau match! Tu as vu dans le final, putain, il y a truc qui a mâché, il y a machin qui a truqué. Bon. Et là, d'un seul coup, parce qu'il y a 3 buts dans les 5 dernières minutes, vous dites c'était un grand match. Laissons la course vivre. Rien ne vous dit qu'il ne va pas se passer quelque chose dans les 5 derniers kilomètres ou à 20 kilomètres de l'arrivée. Imaginez un moment qu'il y a un accrochage en 10 ou 15e position, quelques coureurs piégés du classement général. Et là, d'un seul coup, coup, on est parti. Vous savez, lorsque Armstrong a piégé, lorsqu'il y a eu ce piège avec, donc, en 2009 avec Contador, il a pu être possible parce que c'était deux coureurs de la même équipe. Si ça n'avait pas été deux coureurs de la même équipe, ce coup ne partait pas parce que tout le monde s'est dit qu'est-ce qui se passe. Et en fait, il attaquait, Armstrong avait attaqué pour piéger son propre équipier. Donc, ça, c'est des choses que vous ne pouvez pas imaginer, sauf que avec Armstrong, il fallait s'imaginer tout et même l'incroyable et même l'impossible.
Mais oui, bien sûr. Bah, souhaitons qu'il
bon, se passe. Je vous laisse la parole. Hein.
Non, restez avec nous, mon cher Druid. C'était très parfait, très intéressant. Et c'est bien de défendre effectivement le peloton et de raconter aux auditeurs qui nous écoutent bien qu'il se passe des choses.
Il y a de la course.
Même si apparemment il ne se passe pas grand chose, et bien finalement.
Il y a plus de choses qui se passent aujourd'hui que dans l'étape d'hier où vous aviez six coureurs à l'avant.
Exactement.
Sauf que c'était plus facile pour nous de les expliquer.
Voilà, non, mais c'est très bien. Là, c'est le rôle du consultant vedette que tu es de nous expliquer ça, hein, et de nous faire rentrer dans la course et de nous expliquer justement les dessous de la course. 16h26, on va se quitter quelques instants, revenir ici rapidement sur la route du Tour à Montpellier, à 45 km très exactement de l'arrivée à Montpellier. Le peloton est toujours groupé alors que Peter Sagan, accompagné par trois de ses équipiers, est en train de réintégrer l'arrière du peloton. Il faut pas lambiner, hein, parce que le peloton, évidemment,
oui, mais vous voyez que ça roule.
Très vite. Ça roule. Là tout de suite sur RMC dans l'intégral Tour.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
16h30, vous êtes sur RMC en plein cœur de l'après-midi. Nous sommes toujours dans cette sixième étape du Tour de France entre Aix-en-Provence et Montpellier. On se rapproche de l'Hérault. Nous sommes toujours en pleine Camargue, 42 km de l'arrivée. Donc, et toujours ce peloton groupé qui va rallier Montpellier à vive allure. On va tout de suite retrouver le peloton justement avec la moto RMC Georges Quirino qui se trouve devant ce peloton. Ça continue de rouler assez vite, hein, Georges.
Oui, ça continue de rouler assez vite, effectivement, alors que nous venons de passer la petite commune de Caliard. On est vraiment dans la Camargue actuellement. On voit toujours ces chevaux le long de la route. Et là, actuellement, dans cette petite commune, il y a énormément de supporters sur la gauche, sur la droite de la route, avec leurs tablettes numériques, notamment, et leurs appareils photo pour immortaliser l'instant. Le vent est de trois quarts favorable dans le dos des coureurs, et le peloton qui est toujours emmené par les coureurs de la formation Orica Green Edge du maillot jaune Simon Gerrans. On voit également les coureurs de la formation Sky et de Christopher Froome non loin derrière en deuxième rideau, alors que l'on rentre à l'instant dans la ville des Margues avec toujours autant de public, autant de ferveur ici sur les routes du Tour.
Beaucoup de ferveur sur les routes du Tour. Il y a énormément de monde, et évidemment beaucoup de gens sont déjà en vacances et viennent applaudir les coureurs du peloton. Fred, ça continue de rouler, mais on attend la bordure, elle ne vient pas pour l'instant, hein.
Non, et a priori elle ne viendra pas tant l'avant-garde du peloton affiche une physionomie massive, groupée, et a priori le vent qui était annoncé en rafale à 65-75 km/h en milieu d'étape devait faiblir en direction de Montpellier. On est encore à 41 km de l'arrivée, mais ils sont tellement vigilants et tellement bien organisés, les Orica, les Belkin, les Sky évidemment, les Saxo Tinkoff et même les Europcar pour Pierre Roland, qu'a priori il n'y aura pas de grands coups d'accélérateur, pas d'effet de surprise. Certaines courses sont perdues, certaines courses sont gagnées sur de belles coups de beaucoup de bordures. On se souvient notamment de ce magistral coup tactique réalisé par les CSC à l'époque sur un Paris-Nice dès la première étape à la sortie de la Beauce. Alain Galopin avait concocté cela. C'était une course de début de saison, les conditions étaient très difficiles. Cette fois c'est le Tour de France, tous les coureurs qui sont là sont au top de leurs conditions, et a priori le coup de 2009 où Lance Armstrong avait piégé son propre équipier Alberto Contador ne se reproduira pas. Rappelons à 40 km de l'arrivée qu'un emballage final se précise ici à Montpellier face au stade Yves du Manoir. On devrait avoir une nouvelle explication entre sprinteurs après la victoire de Cavendish hier à Marseille. De cette explication plausible, probable même,
un coureur ne sera pas, c'est Nasser Bouhanni, l'ancien champion de France qui découvrait le Tour de France cette année. Il a mis pied à terre tout à l'heure, peu avant la mi-course, trop épuisé par une gastro-entérite, trop marqué par ces deux chutes, dont celle d'hier dans le sprint final à Marseille.
Oui, oui, le petit sprinteur lorrain qui découvre cette année le Tour de France, et malheureusement une découverte un peu difficile pour Nasser Bouhanni qui, soyez-en sûr, reviendra dans les années à venir car c'est une pépite en matière de sprint. Il y en a une autre, hein, au sein de la FDJ.fr, Arnaud Démare, qui lui n'a pas encore débuté sur le Tour de France. Ce sera probablement son tour l'an prochain, et lui aussi est très très fort, hein, Fred.
Ah oui, de nombreuses victoires, notamment sur les 4 jours de Dunkerque qu'il a remporté au général cette année. Il s'est gagné partout, y compris dans les courses de haut vol. Il avait remporté l'an passé la classique de Hambourg, ancien champion du monde espoir, faut-il le rappeler. Arnaud Démare, qui, au même titre que Brian Coquard,
voilà, encore un, le troisième larron.
Oui, oui, ils sont trois très jeunes sprinteurs qui devraient pouvoir batailler pour le maillot vert, au même titre que les Sagan, Cavendish ou Greipel depuis plusieurs années sur le Tour de France. On s'en régale par avance. Ouais.
Cyril, quel est le plus fort des trois? Tiens, on va te poser la question subsidiaire. Nasser Bouhanni, Arnaud Démare ou Brian Coquard? Quel est celui qui t'impressionne le plus et qui a peut-être le plus de belles perspectives dans l'avenir sur le Tour de France ou sur les d'autres courses, évidemment?
Oh, c'est très difficile à dire, d'abord parce que tous les trois sont très jeunes, hein, et Coquard arrive seulement des rangs amateurs.
On rappelle que Brian Coquard a été sacré vice-champion olympique à Londres l'été dernier sur la piste, hein, oui, et que depuis il est passé professionnel sur la route.
Et vice-champion du monde. Exactement. Des moins de 23 ans, derrière Lutsenko qui était dans l'échappée hier. Ouais. Hein. Donc c'est trois coureurs en plus qui ont des qualités un petit peu différentes sur les sprints. Nasser Bouhanni, on le connaît, c'est un coureur qui vient dans l'aspiration, qui est très adroit, même s'il a chuté hier, mais on en connaît les raisons, et qui n'a pas peur, qui est un vrai guerrier. Et puis vous avez Arnaud Démare, qui est un coureur qui aime moins aller au combat, moins aller dans la fournaise du sprint, et qui a besoin de sprints beaucoup plus longs. C'est-à-dire que autant Bouhanni peut être un sprinteur court, Démare a besoin de sprints longs, bien lancés et lancés en tête. Donc ce sont deux coureurs qui ont des qualités différentes. Et Coquard, eh bien, il se situe un petit peu entre les deux, un peu à la manière d'un McEwen par exemple, et qui lui est capable aussi de venir très tard pour sauter. Il n'a pas encore atteint, je pense, il n'a pas encore atteint sa puissance maximale. Mais il vient de la piste et je pense qu'il pourra faire jeu égal avec les deux autres Français. Mais de toute façon, on a trois Français capables de faire jeu égal avec les cinq meilleurs mondiaux.
Alors, on parlait l'autre jour en rigolant, en disant que les sprinteurs étaient les grosses cuisses du peloton. Quand on regarde Brian Coquard, c'est pas vraiment le prototype du sprinteur costaud et tout. C'est une crevette. Mais alors, il va être
content si vous le traitez de crevette.
Non, mais c'est une crevette. C'est affectueux quand je dis ça. Mais c'est pas un grand costaud. C'est pas un Cipollini, je veux dire. Hein, c'est un petit bonhomme.
C'est un coureur normal, on va dire. Il doit faire à peu près 1m75. Il pèse pas très lourd, un petit peu comme McEwen. Voyez-vous, c'est des coureurs qui ont vraiment une explosivité sans avoir besoin d'avoir de grosses masses musculaires. Mais d'un autre côté, ils ont une capacité d'accélération beaucoup plus rapide que quelqu'un qui fait 80-85 kg comme un Greipel. Sauf que Greipel, quand il est bien lancé, il va utiliser son poids pour maintenir sa vitesse maximale. Mais Coquard sait tout faire. Je pense que sur les trois, c'est peut-être celui qui aura le plus de capacité dans les arrivées en bosse, justement par rapport à son rapport poids-puissance.
Il passe mieux les bosses que Démare et puis Bouhanni, ça c'est sûr. Mais j'ai vu Coquard.
Donc ce qui veut dire que pour le maillot vert, ça peut être plus intéressant pour Coquard.
Ça sera plus intéressant pour Coquard pour l'avenir, ouais, de prendre le maillot vert sur le tour. Je l'ai vu à l'étoile de Bessèges, Coquard, pour la première fois. C'était sa première course professionnelle. Et il a gagné. Et puis de belle manière, parce qu'il a un coup de rein au démarrage extraordinaire. Il fait l'écart de suite et puis après c'est terminé. Terminé, d'ailleurs il a surpris tout son monde. Hein. Et c'est vrai que Coquard, il est capable de monter les bosses, il est capable de, de pouvoir gagner des courses même en côte, genre peut-être Paris-Nice. Ça, c'est je dis pas qu'il va gagner Paris-Nice, mais il peut remporter des arrivées avec des bosses de 2-3 km.
Très bien. Brian Coquart, que Jean-René Bernodeau n'a pas sélectionné cette année pour le Tour de France. Il est né au pro. Il faut pas les griller comme ça. On se souvient l'année dernière de nos débats concernant Thibaut Pinot, qui lui aussi avait quasiment le même âge l'année dernière et qui avait été sélectionné, qui avait quasiment imposé sa sélection à Marc Madiot. Il faut pas non plus forcer les jeunes coureurs à venir tôt dans le Tour de France, même si on l'a vu pour Thibaut Pinot, finalement c'était plutôt de l'expérience emmagasinée, et cette année peut-être cette expérience va lui servir, Cyril.
Non, c'est pas du tout ma philosophie et ma théorie.
Tu penses toujours que c'était une erreur de le faire venir sur le Tour l'an dernier.
On ne perd pas de temps à attendre quand on a 22 ans, c'est pas vrai. Et l'expérience, de toute façon, elle vient sur l'ensemble des courses auxquelles vous participez tout au long de la saison. Et je dis, on ne perd pas de temps à attendre. Rappelez-vous quand même, j'ai attendu que Bernard Hinault ait plus de 23 ans pour qu'il fasse le Tour de France. Et à l'époque, il avait un autre palmarès que les Français actuellement, même les meilleurs, puisqu'il avait déjà gagné Liège-Bastogne-Liège, le Critérium du Dauphiné, Gand-Wevelgem, et j'en passe. Donc l'expérience, on l'apprend au travers de toutes les compétitions auxquelles on participe. Et puis, ce qui est très important, il faut arriver à un moment à avoir une équipe qui est constituée autour de vous pour ce genre d'exercice. Et c'est la raison pour laquelle, non seulement il faut attendre lorsqu'on est jeune, mais il faut aussi attendre d'avoir une équipe qui est très solide, très expérimentée également, et puis avec des coureurs déjà d'un certain âge et un âge mûr.
Par exemple, Boigny, tu penses qu'il était trop jeune aujourd'hui pour cette année pour faire le Tour de France?
Non, il était à sa troisième année de professionnalisme, donc lui il pouvait le faire. Et puis il est dans un registre de sprinter, il n'est pas dans un registre de coureur qui fait le classement.
D'accord, c'est différent.
Général.
C'est-à-dire les sprinters peuvent débuter sur le Tour plus jeunes que les grimpeurs ou que les garçons complets qui visent le général.
Il y a la moitié du Tour de France qu'ils peuvent faire en se laissant lâcher dès que la course devient difficile. Mm-hmm. Donc ils ne s'entament pas, ils ont des véritables plages de récupération, parce qu'il faut bien se dire une chose, les coureurs qui finissent à 20 minutes ou à 40 minutes des hommes de tête, c'est quand même une étape de repos. Hein. Quand vous perdez une minute par kilomètre dans la montée d'un col, à ce niveau-là, ça veut dire que vous êtes, et on l'a maintenant d'ailleurs avec les relevés avec l'ensemble de l'électronique qu'on met sur les vélos, la plupart du temps, ils ne sont même pas en endurance critique. Quoi. Donc,
Et Cyril, Romain Bardet alors?
Bardet, c'est très bon, ça. C'est très bon. Mais Bardet, il a déjà 24
tours. Pour faire son premier tour.
Oui, mais il a quel âge, Bardet? Il a
22 ans.
Non, il est un peu plus jeune. Non, il a 23, Bardet.
Non, 22 ans.
22, 23. Il est dans sa 23e année. Allez, voilà. Tout le monde est d'accord.
Oui, 22 ans, il n'a jamais compris.
Attention, chute dans le peloton qui a compris plusieurs coureurs, qui a impliqué plusieurs coureurs, dont Mark Cavendish à l'instant à 33 km de l'arrivée. Ah. Vous le disiez tout à l'heure, Cyril, il se passe toujours quelque chose tant qu'on laisse la course vivre. Effectivement, le grandissime favori pour la victoire ici devant le stade Yves du Manoir à Montpellier, alors que le peloton est groupé depuis une centaine de kilomètres maintenant et roule à vive allure. Mark Cavendish est attardé, il ne s'est pas fait mal, le champion de Grande-Bretagne qui vise une 25e victoire d'étape aujourd'hui ici à Montpellier, mais il est attardé, tout peut arriver sur la route du Tour.
Alors que faire quand on est dans la peau de Greipel, messieurs? Est-ce qu'on profite de la mise au sol d'un adversaire pour accélérer, ou est-ce qu'on attend l'adversaire? Cyril, si tu étais aujourd'hui le directeur sportif de Greipel, qu'est-ce que tu dirais à tes hommes?
Laissons la course vive, on est à 32 km de l'arrivée, c'est très tendu, tout le monde roule en tête de peloton, ça fait partie de la course actuellement. Alors certaines équipes pourraient éventuellement se relever, mais là ce qui se passe, c'est qu'on ne se relève pas, mais on n'accélère pas le rythme sur cet incident.
Et ça roule très fort quand même.
On est encore assez loin de l'arrivée. Mais compte tenu du contexte de la course, je peux vous dire que les directeurs sportifs là, dans les voitures derrière, il n'y en a pas un qui rigole, hein, parce qu'il sait qu'il peut se passer quelque chose tous les mètres. Je n'ai pas dit tous les 7, tous les 2 mètres, tous les mètres, il peut se passer quelque chose.
Très bien.
Je veux dire qu'on est très tendu et que les mécanos sont prêts derrière et qu'on a le risque de la chute, le risque du coup de bordure qui part. Non, il n'y a personne de tranquille dans les voitures.
Surtout qu'il y a pas mal de rétrécissements dans le final et il va falloir faire très attention.
Georges, rapidement, est-ce que tu peux nous donner l'allure du peloton, puisque tu te trouves juste devant ce peloton? Est-ce que ça roule aux alentours des 60 km/h?
Ça a accéléré en tous les cas. Lorsque nous sommes rentrés il y a quelques instants dans le département de l'Hérault, on est rentré dans la ville de Lunel, et c'est le moment où les coureurs de l'équipe BMC, les coéquipiers de Cadel Evans, se sont positionnés à l'avant de la course, et on a senti qu'il y avait un changement d'allure, en tous les cas une accélération depuis que les BMC s'étaient portés à l'avant. Dans Lunel, il y a énormément de ronds-points, énormément d'intersections, de virages très serrés, donc c'est certainement ce qui a provoqué un regard de nervosité dans ce peloton qui vient effectivement de monter d'un cran au niveau de sa vitesse depuis que les BMC sont à l'avant.
Ok, il est 16h43, la course contre la montre de Mark Cavendish pour tenter de rallier l'arrière du peloton et de reprendre sa place pour effectuer le sprint tout à l'heure. On l'a dit, Mark Cavendish retardé par une chute il y a de cela quelques instants, il est un petit peu abîmé. Il est râpé côté gauche, l'animal.
Le maillot blanc, rouge, bleu de champion de Grande-Bretagne est tout sale sur la gauche et même râpé à hauteur du récepteur des oreillettes. Mark Cavendish qui attend toujours du renfort. Il est pour l'instant, comme disent les coureurs, dans le coffre de sa voiture de directeur sport.
16h44, l'intégral tour revient dans une petite minute pour le final de cette étape vers Montpellier. Encore 30 km à parcourir avant l'arrivée. A tout de suite.
RMC jusqu'à 18h, intégral tour. Christophe Cessieux.
Et nous nous approchons petit à petit de Montpellier, où sera jugée tout à l'heure l'arrivée de la 6e étape du Tour de France. Une arrivée qui devrait probablement se jouer au sprint, puisque le peloton est toujours groupé à moins de 30 km de l'arrivée maintenant. Il y avait un suspense en jeu il y a quelques secondes avec une chute de Mark Cavendish. Mark Cavendish qui a été obligé d'accélérer pour tenter de revenir à l'arrière du peloton. Fred, a-t-il réussi à réintégrer le peloton, Mark Cavendish?
Oui, au prix d'une chasse effrénée. Il aura un deuxième sprint, un troisième si l'on compte le sprint intermédiaire tout à l'heure disputé à Mossane. Il vient de se mettre une ration d'efforts supplémentaires en prévision de Montpellier. Il n'y avait pas vraiment besoin de ça aujourd'hui, au rythme, à la vitesse à laquelle va la course, en raison du vent qui souffle de côté et des risques de cassure que sont en train d'éviter les principales formations. Ça roulait très vite et c'est vrai, Mark Cavendish a été pris dans une chute à cause notamment du trafic, de ces îlots directionnels, de ces changements de direction. Il est rentré quasiment tout seul, le champion de Grande-Bretagne, avec un maillot souillé, râpé. Il est allé tâter du bitume, Mark Cavendish, mais apparemment tout va bien. Il a joué l'acrobate à l'arrière du peloton, dans le coffre des voitures des directeurs sportifs. On l'a vu faire du gymkhana sur les ronds-points notamment. L'adrénaline est montée très haut, les pulsations aussi. Heureusement, sur la fin, il a été attendu par un équipier de sa formation Omega Pharma, en la personne de Nicky Terpstra, mais tous ne l'ont pas attendu, loin de là, puisqu'ils étaient simplement occupés à l'avant du peloton, non pas à accélérer l'allure évidemment, mais bien à la freiner. On a même vu des gestes de Sylvain Chavanen ou de Michał Kwiatkowski, le meilleur jeune de ce début de Tour de France, intimer l'ordre, c'est un bien grand mot, mais recommander à l'avant du peloton de ralentir le rythme, parce que Sir Cavendish était attardé sur chute.
Ah, ça nous rappelle une image il y a de cela quelques années, avec Fabian Cancellara en tête de peloton, qui avait demandé à tout le monde d'attendre parce que l'un de ses leaders, l'un des frères Schleck, avait été retardé.
C'était à Spa
exactement. Cyril, est-ce bien normal tout ça? Faut-il arrêter le peloton lorsque l'un de ses leaders est victime d'un incident mécanique ou d'une chute à l'arrière?
Alors, tout dépend bien sûr des circonstances, à combien de kilomètres de l'arrivée, qui sait, quelle est aussi la sympathie que vous avez ou l'antipathie, mais il est évident, et c'est toujours ce que je disais à mes coureurs, il est plus facile de ralentir un peu le peloton que d'attendre votre leader et de rouler à fond pour revenir. En plus, ils ont quand même un autre leader qu'ils ne peuvent pas laisser également seul, c'est Kwiatkowski, qui est quand même pour l'instant très très bien placé au classement général et surtout pour le maillot blanc, et on sait que c'est aussi très important. Donc le fait de dire et d'essayer de faire un peu diversion en tête de peloton, donc de faire ralentir un petit peu ce peloton, eh bien c'est beaucoup plus efficace que de rouler à fond au milieu des voitures. Et puis comme vous avez pu le voir, Cavendish est à droit dans les sprints, il est aussi à droit sur les ronds-points.
Voilà.
Et ceci dit, il est quand même tombé, donc il a bien fait une faute de maladresse.
Et puis son influence, sa position, on sait que c'est l'une des grandes stars de ce peloton, fait qu'aujourd'hui, eh bien quand Cavendish est retardé,
attendez. Là, on s'occupe plus des stars en ce moment. La course est trop tendue pour s'occuper des stars. Hein.
Et ça a bien ralenti quand même.
Pratiquement pas.
Ça avait ralenti un petit peu parce que Sylvain Chavanel s'était mis.
Oui, mais vous avez vu immédiatement les Saxos.
Ils ont repris la course en main, les Saxos. Attends, laisse-moi finir. Oui. Ils ont repris la course en main, les Saxos, parce que Cavendish est revenu dans le peloton. Ça recommence à rouler. Mais à un moment donné, il y a eu un temps de répit de 5 minutes où.
Il n'y a pas eu 5 minutes. Cyril,
quand un peloton est lancé à une telle vitesse, à quelques kilomètres de l'arrivée, tout le monde le dit depuis tout à l'heure, ça roule très fort, ça roule très vite, comment se fait-il qu'un garçon seul ou accompagné d'un seul coéquipier parvient à réintégrer ce peloton?
C'est très facile, et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire descendre beaucoup d'équipiers quand vous êtes dans cette situation.
Que les voitures.
Parce que vous êtes dans l'aspiration des voitures et vous rentrez plus facilement dans l'aspiration des voitures qu'avec deux ou trois équipiers qui vous emmènent pleine route, quoi. Et lorsque vous êtes dans le pare-choc d'une voiture, vous rentrez toujours. Mais même avec les voitures, Cavendish a quand même mis du temps à revenir. Et on l'avait vu d'ailleurs avant avec Peter Sagan, qui avait dû mettre 7 ou 8 km sur une crevaison pour pouvoir rentrer. C'est-à-dire que ça va très vite, il faut faire très attention, parce que s'il n'y avait que des lignes droites, on rentrerait d'ailleurs beaucoup plus vite dans le sillage des voitures. Mais là, on est passé dans des villages où il y avait en même temps des ronds-points. Mmh. Et là, vous êtes obligé de sortir de l'aspiration, vous êtes obligé de lever la tête, regarder ce qui se passe. Un virage à droite, un virage à gauche, hop, un rond-point, un îlot directionnel. Donc là, il faut être très
même
attentif.
Même au niveau des pilotes de voiture, il faut être très attentif.
Oui, hein. Surtout quand vous avez les coureurs dans le pare-choc.
Oui, voilà, exactement.
Frédéric parlait tout à l'heure de l'adrénaline, donc il s'en est fait une petite là, sur le premier sprint. Là, il s'en est fait une deuxième. Est-ce qu'il aura le temps de refaire les niveaux pour l'arrivée? Oui. C'est pas évident.
Alors, est-ce que justement, Cyril, quand on a été obligé de fournir un tel effort, comme celui fourni par Marc Cavendish tout à l'heure pour réintégrer l'arrière du peloton, est-ce qu'on peut le payer ça ensuite dans un sprint? Est-ce que ça entame ce genre d'effort?
Oui, si vous êtes déjà un petit peu juste, oui, bien sûr, par rapport aux autres sprinters. Bon, il a de la marge aussi, hein, faut quand même le savoir. C'est lui qui va le plus vite. Maintenant, quand on a tapé du bitume, comme dit Fred Adam, quand on a tapé du bitume, quelquefois on a un tout les 2% de plus d'appréhension, quelquefois ça suffit pour vous faire perdre.
Très bien, donc Cavendish n'est plus favori de l'étape.
Il reste favori, mais il a tapé du bitume.
Et voilà, donc Greipel
a bouffé. Il a fait fonctionner les glandes qui fonctionnent et qui fabriquent l'adrénaline aussi.
Voilà, il a tapé du bitume, il a bouffé du gravillon.
Tâté du bitume.
Georges Quirino n'a pas tâté du bitume, heureusement pour lui d'ailleurs, mais avec Marc il est tranquille. Sur la moto RMC, est-ce que ça roule bien? Dernière petite carte postale, ensuite tu vas devoir partir pour rallier l'arrivée, mais ça envoie, hein. On ne lambine pas en route aujourd'hui.
Oui, on est dans une longue ligne droite désormais, mais on voit quand même des ronds-points et des îlots directionnels devant nous, donc ça va être un peu compliqué. Mais le vent qui continue de souffler, un vent latéral qui vient sur la droite du peloton, où on a vu il y a quelques instants, vous l'expliquiez, depuis 5-6 km, eh bien les coéquipiers d'Alberto Contador, les coureurs de la formation Saxo Bank, qui s'étaient portés à l'avant de la course. Et c'est vrai que presque immédiatement, on a vu dans le sillage des Saxo Bank les coéquipiers de Christopher Froome, les coureur de la formation Sky, composer le deuxième rideau pour remonter leur leader. On montre les muscles visiblement entre les deux équipes, des deux grands favoris de ce Tour de France, alors que le peloton qui arrive désormais dans la commune de Moggio, qui passe sous la banderole indiquant les 20 derniers kilomètres, et ce sont désormais les coureurs de la formation Belkin qui se sont positionnés à l'avant de ce peloton.
Les coureurs de la formation Belkin qui sont devant, les autres équipes de sprinteurs ne sont pas très loin derrière. On va s'observer encore quelques temps avant évidemment de préparer le sprint. 20 km de l'arrivée, Fred. C'est vrai que on va surveiller quand même Cavendish pour voir s'il n'est pas trop abîmé. Et puis on suivra évidemment ce sprint dans quelques minutes. Fred, on fait un nouveau point sur la course. Il est 16h56. On va s'interrompre quelques instants pour les infos et revenir dans quelques minutes. C'est le Top Course.
RMC Top Course.
La banderole des 20 km avant l'arrivée à Montpellier, ici devant le stade Yves du Manoir, et la journée entre Aix-en-Provence et la capitale de l'Hérault aura été très animée à l'avant du peloton, puisque quasiment pas d'échappée aujourd'hui. La vigilance est de mise dans les plaines de Camargue, du vent un peu, de la vigilance et du stress beaucoup. 19 km 500 de l'arrivée, les sprinteurs sont bien au chaud, les favoris aussi, eux qui ont sonné la charge avec leurs équipes respectives. On voit depuis de nombreuses dizaines de kilomètres maintenant les Sky de Froome, les Saxo de Contador, les BMC de Cadel Evans, tout le monde est aux aguets. L'étape n'est pas bien longue, 176 km 500, mais beaucoup d'influx, beaucoup d'énergie auront été dépensés aujourd'hui. Arrivé devant le stade Yves du Manoir avec a priori un sprint magistral dans 19 km exactement.
Très bien, eh bien nous nous retrouvons dans quelques instants, juste après les infos de 17h, pour vivre ce final et ce sprint qui s'annonce. Sprint Royal, Cavendish, Greipel, il y aura pas Bouani, Sagan et les autres qui sont prêts à en découdre dans quelques minutes à l'arrivée à Montpellier.
RMC jusqu'à 18h, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Et le final de cette sixième étape du Tour de France, nous allons le vivre en intégralité maintenant. Nous sommes à moins de 10 km de l'arrivée de cette sixième étape.
RMC, les 10 derniers kilomètres.
9 km 300 très exactement avant l'arrivée. Il y a un sprint massif qui se prépare maintenant dans le peloton. Attention, ça roule très vite et du coup à l'arrière, il y a des chutes, notamment le leader de la formation Astana, Fred.
L'un des co-leaders de l'équipe Astana, puisque Janez Brajkovic, le Slovène, longiligne slovène, ancien coureur de l'équipe RadioShack, est allé au sol parce que ça roule très vite à l'approche de Montpellier. Effectivement, il est allé au sol, il a mis beaucoup de temps à se relever et il ne peut plus ambitionner quoi que ce soit au classement général du Tour de France. Le leadership au sein de cette équipe Kazakh Astana arrive, échoue sur les épaules du Danois Jakob Fuglsang, l'ancien meilleur copain des frères Schleck, notamment au sein de la formation CSC, et bien devra assumer seul ce rôle de leader chez Astana. On est à 8 km 500 de l'arrivée et le peloton est groupé. On roule un peu moins vite, il n'y a plus de risque de bordure, mais attention aux bordures des trottoirs cette fois, on est en agglomération.
Eh oui, Cyril nous le disait tout à l'heure, attention, méfiance, prudence pour tous les leaders, tout peut arriver en l'espace d'une seule seconde, et là en l'occurrence, Cyril, pour Brajkovic, c'est la fin des espérances sur ce Tour de France, et ça peut arriver à n'importe qui, hein. C'est pas parce qu'on est leader qu'on est protégé sur les routes du Tour.
Oh, j'ai presque envie de dire, on l'est un peu plus que les autres, parce qu'on a des équipiers qui vous ouvrent la voie une partie de l'étape, du moins quand ils le peuvent, mais cette équipe Astana qui a déjà perdu deux coureurs, hein, Kashechkin et Kesiakov, eh bien risque peut-être tout simplement de perdre Brajkovic, parce que s'il n'est pas reparti tout de suite, c'est qu'il sait qu'il y avait un gros problème, et je ne suis pas certain qu'il n'ait pas une fracture du poignet, voire ou du pouce. Mais vous savez, un coureur qui joue le classement général et qui ne se relève pas tout de suite, c'est qu'il a cassé du bois.
Ou alors qu'il a pris un choc, être sous le choc et voir des étoiles, c'est possible. Il avait l'air totalement groggy, mais probable que le scaphoïde effectivement soit touché. Le scaphoïde très fréquemment cassé chez un coureur cycliste.
En tout cas, la main droite a l'air... Je crois qu'au niveau du poignet...
Le menton a l'air un peu touché pour Brajkovic.
Non, mais c'est vrai que la journée aujourd'hui, Christophe, c'est le vent. Et puis dans le final, les 10 derniers kilomètres, comme je le disais tout à l'heure, tout ce qui est îlot directionnel, trottoir, rétrécissement de chaussée, c'est vrai que c'est très, très... C'est spécial, quoi, pour les équipes de leaders et en même temps pour les équipes des sprinteurs, parce que tout le monde veut être placé dans le final. Et à un moment donné, c'est un risque. Donc le risque de frotter, le risque de vouloir être devant et le risque de se manger un trottoir, un îlot directionnel au dernier moment.
Et oui, donc Brajkovic qui va devoir abandonner tout espoir. Il y en a un autre qui a abandonné tout espoir de bien être placé au général. C'est l'un des leaders de la formation Cofidis, Fred Taramae, qui lui aussi a été victime d'une chute. C'était lors de la première étape. Mais là, le problème chez Cofidis, c'est qu'ils sont deux, les deux co-leaders à avoir été victimes d'une chute, et qu'ils sont tous les deux très loin, à savoir Taramae et Koppel. Et là, on n'a plus aucun espoir au général pour cette équipe.
Hein. Si, il reste un Espagnol, l'ancien lieutenant de luxe de
Alberto Contador, c'est Dani Navarro, le grimpeur espagnol. Il y a également Christophe Lemével, mais ce sont, c'est vrai, des leaders de rechange, on va dire. Et ben, ils sont là pour ça. Coppel et Taramae sont out. On a vu le champion d'Estonie décrocher d'un seul coup, apparemment à bout de force. Ren Taramae, bien handicapé. On est à 6,3 km de l'arrivée. Le ménage se fait actuellement par l'arrière. Le peloton a été scindé en deux parties il y a quelques instants. David Millar, notamment, qui est très bien placé au classement général, était piégé. Ça a l'air de se regrouper, tandis qu'à l'avant, le peloton est emmené par les Omega Pharma de Mark Cavendish et les Saxo Tinkoff d'Alberto Contador. À gauche de la route, le maillot bleu clair et noir des Omega du champion de Grande-Bretagne. Et à droite, Daniele Benatti, l'ancien sprinter reconverti équipier modèle pour Alberto Contador. On entre dans Montpellier à l'heure actuelle et on prépare un sprint qui semble évident.
Sprint évident, et nous allons voir dans quelques minutes si la chute qui a mis au sol tout à l'heure Mark Cavendish aura eu des conséquences quant à la puissance du leader de la formation Omega Pharma Quickstep. Mark Cavendish, on le rappelle, qui a dû fournir un gros effort pour revenir dans ce peloton après avoir été donc jeté au sol par une chute. On rappelle également que Mark Cavendish est imposé hier, qu'il était le grandissime favori aujourd'hui, mais qu'il est peut-être entamé par cette chute et par l'effort qu'il a dû faire pour revenir sur le peloton. Alors, deux équipes qui roulent en tête, pas pour le même but. Évidemment, la formation Saxo, c'est pour protéger Alberto Contador. La formation Omega, c'est pour préparer le sprint pour Mark Cavendish. On se rapproche de l'arrivée. 5 km. Cyril, est-ce que Cavendish est toujours le favori de cette sixième étape?
Il reste par obligation un favori à chaque fois qu'il y a une arrivée au sprint, alors que l'on passe sous la banderole des 5 derniers kilomètres. À partir du moment où il est présent, il est favori.
D'accord.
Et en même temps, on voit l'équipe BMC, hein, et Cadel Evans, ils sont dans les 5-10 premiers là.
Ouais, Cadel Evans, et il y a un sprinter chez BMC aussi, Fred. Hein.
Oh, il y a beaucoup Walter qui va vite. Philippe Gilbert pourrait être concerné, mais on a tellement vu le champion du monde belge travailler pour ses leaders, Cadel Evans ou TJ Van Garderen, qu'il ne devrait pas se mêler au sprint. Non, on protège davantage Cadel Evans à coup sûr. Evans qui a l'air bien dans ses baskets en ce début de Tour de France. Ah ouais. Il a perdu un peu de temps sur le chrono par équipe, mais il sort du Giro avec une condition améliorée. Quand on se fait vieux, apparemment, on a davantage besoin de courir que de s'entraîner. C'est en tout cas sa formule. À vérifier, évidemment, dans les Pyrénées. Ce sera dès samedi. On arrive à Axe 3 Domaines. Dimanche, Bagnères de Luchon. On est déjà au pied de la montagne.
Et demain, ça paraît pas évident quand même. Hein. C'est quand même très, très vallonné.
Ouais, mais la veille de l'étape dans les Pyrénées, grands leaders pour le général vont pas se mettre là. Non.
Allez, 4 km de l'arrivée. Le sprint inévitable se prépare en direction de Montpellier. Devant le stade Yves du Manoir, il n'y aura pas eu de cassure, pas de leader piégé dans cette étape à haut risque. Le scénario de la Grande Motte en 2009 ne s'est pas reproduit. Les leaders ne se sont pas piégés entre eux. Et rappelons-nous que en 2009 à la Grande Motte, c'est Mark Cavendish qui s'était imposé. En 2011, il y a 2 ans, ici en face du stade Yves du Manoir, c'était encore le Manx Express, le sprinter, le Lilleman, qui s'était imposé. Est-ce que Mark Cavendish va à nouveau s'imposer et remporter sa 25e étape sur le Tour, lui qui s'est imposé ici à Marseille? Réponse dans 3,5 km. En tout cas, ses coéquipiers de la formation Omega Pharma sont particulièrement concernés. Ils sont relayés à l'avant du peloton par d'autres maillots clairs, les maillots blancs et bleus des Argo Shimano, qui préparent le sprint pour le duo allemand, l'aigle à deux têtes, Marcel Kittel, John Degenkolb. L'explication s'annonce royale entre Kittel, Degenkolb, Greipel, Cavendish, mais pas Bouhanni. Rappelons que l'ancien champion de France, qui découvrait le Tour de France cette année, le sprinter de la FDJ.fr, a mis pied à terre peu avant la mi-course aujourd'hui. Trop diminué, on est à 3 km de l'arrivée.
Voilà, Marcel Kittel, qui, rappelons-le, avait remporté la première étape de ce Tour de France, le premier sprint. Un sprint un petit peu tronqué, car la plupart des autres sprinteurs avaient été retardés dans une chute. Kittel avait su en profiter, mais il est quasiment du même niveau que Greipel ou Cavendish. On va voir sa pointe de vitesse dans quelques instants, puisque nous sommes maintenant à moins de 3 km de l'arrivée, et toujours cette formation Argo Shimano qui emmène Marcel Kittel. Cavendish n'est pas très loin derrière non plus, Fred. Hein.
Trois équipiers devant Marcel Kittel. La formation Argo Shimano semble prendre les rênes du sprint. On est un peu loin, 2 km 600 encore, mais ils sont parfaitement organisés. Les Argos n'ont mis aucun coureur capable de viser le classement général sur ce 100e Tour de France. C'est tout pour les sprints, et c'est dès maintenant à Montpellier qu'il faut en profiter, après la première victoire de Kittel sur le Tour de France à Bastia. On s'en souvient, sur la première étape, 2 km 300 de l'arrivée, Marcel Kittel
qui compte encore deux équipiers devant et un derrière en la personne de John Degenkolb.
Il faudra surveiller également le classement de Daryl Impey dans ce sprint. Daryl Impey qui est deuxième au général à seulement quelques places, non pas quelques secondes, mais quelques places de son leader Simon Gerrans. Il y a 7 places d'écart, c'est-à-dire que si Gerrans termine 8 places derrière Impey, il y aura changement de maillot jaune tout à l'heure, Fred. Hein.
Et s'il termine 7 places derrière?
Ah, alors là,
on n'est pas dans la merde. 1,7 km de l'arrivée et un sprint royal se prépare ici aux abords du stade Yves du Manoir avec les Argos qui laissent le commandement du peloton à l'équipe Lotto Bellisol qui prépare le sprint évidemment pour le gorille de Rostock, André Greipel en quatrième position avec son maillot de champion d'Allemagne. Les Argos Shimano sont en deuxième rideau, les Omega Pharma en troisième, 1,2 km de l'arrivée, tout le monde est là et même les Sky pour Edvald de Boassenhagen, le Norvégien deuxième hier à Marseille.
La flamme rouge du dernier kilomètre.
Intégral Tour, la flamme rouge.
Le sprint se prépare. Qui de Greipel, Cavendish ou Kittel va s'imposer ici à Montpellier? Réponse dans quelques secondes. Pour l'instant, les coéquipiers de Greipel emmènent le gorille de Rostock, Fred.
André Greipel en troisième position, emmené par deux équipiers dans sa roue. On aperçoit le maillot vert de Peter Sagan. Derrière, Marcel Kittel, John Degenkolb. Il y a la Matthew Goss également. On n'aperçoit pas Marc Cavendish dans les 10 premières positions. Le sprint qui se lance de très loin. On est à 500 mètres avec le dernier poisson pilote d'André Greipel qui lance à 400 mètres de la ligne maintenant avec son champion d'Allemagne de coéquipier dans la roue. Le sprint n'est pas encore franchement lancé avec André Greipel en deuxième position dans sa roue. Peter Sagan, Marc Cavendish sort de la boîte et vient se positionner à la hauteur de son ancien équipier André Greipel. À droite de la route, André Greipel a lancé en surpuissance avec Marc Cavendish en embuscade qui va être un peu court. Marc Cavendish, c'est bel et bien André Greipel qui va venir s'imposer ici à Montpellier devant Peter Sagan. Troisième, Marcel Kittel. Quatrième, Marc Cavendish. Et cinquième, le Basque Lobato. Victoire ici à Montpellier d'un revanchard, André Greipel, vainqueur de 3 étapes l'an passé sur le Tour de France, qui a été battu à plusieurs reprises, qui a terminé quatrième hier à Marseille et qui vient prendre une terrible revanche. Monsieur Muscle devance Hulk Peter Sagan. Marc Cavendish s'est cogné à André Greipel, il a buté dans les derniers hectomètres. Peut-être que sa chute de tout à l'heure à 30 km de l'arrivée lui a coûté ce surplus d'énergie qui lui a manqué fatalement ici sur la ligne d'arrivée. Il ne fait pas coup double, Marc Cavendish. Ouais. Victoire de Greipel.
Pierre-Yves Leroux derrière la ligne avec Alberto Contador.
Ça va très vite, il y a beaucoup de monde, ça se bouscule un petit peu évidemment. Comme toujours lors des arrivées, on va essayer de repérer un coureur qui est disponible éventuellement. Tiens, Arnold Janusson. Arnold, qu'on n'a pas beaucoup entendu depuis ce début de ce tour de la FDJ. Racontez-nous un petit peu votre début de Tour de France et cette étape où il faisait très chaud, Arnold.
C'est une étape un peu spéciale. Tout le monde avait peur du vent, des bordures. Après, il n'y a qu'un seul homme qui s'est lancé devant. Mais bon, on savait très bien que ça irait pas loin. Toutes les équipes étaient vigilantes. Et puis, finalement, personne n'a voulu faire la bordure. Tout le monde protégeait ses leaders, ses sprinters. Donc, à part quelques chutes, ça a été une étape sans dégâts.
Sans dégâts, sauf pour votre équipe, puisque vous perdez Nasser Bouhanni. C'est la mauvaise nouvelle du côté de la FDJ.fr. Aujourd'hui, vous avez été vite informé. Bien sûr, vous saviez que Nasser était en difficulté ce matin.
Là, vous venez de me l'apprendre. Donc, effectivement, je pense que DS n'a pas voulu nous le dire parce que ça fout un coup moral. Donc, effectivement, ouais, finalement, c'est pas une bonne journée. Même si, le principal, c'est quand même que Thibaut n'ait pas pris de cassure, pas de chute. Après, c'est sûr, c'est dommage pour Nasser. On savait que ce matin, c'était délicat pour lui. C'était bien parti pourtant. C'est parti tranquillement, mais dans le final, c'est sûr que c'était pas son tour, on va dire. Il a que des pépins depuis le début, donc il est encore jeune. Il en aura d'autres, des grands tours, et je pense qu'il va revenir très fort.
Merci Arnold, désolé de vous avoir donné cette mauvaise nouvelle donc à l'arrivée ici à Montpellier, mais de toute façon les bus ne sont pas très loin et ses équipiers l'auraient su assez rapidement évidemment.
Voilà donc André Greipel qui s'impose ici, le gorille de Rostock qui prend sa revanche après avoir été largement battu par Marc Cavendish hier. Cyril, la formation Lotto a vraiment conduit à un sprint d'école pour Greipel. Il n'y a pas eu une erreur, il avait la bonne trajectoire, il était sur le bon côté de la route et il a été emmené par tous ses équipiers. Aujourd'hui, il était imbattable. Hein. Quand on est protégé comme ça par ses équipiers, c'est imparable.
Oui, il a été bien emmené. La seule chose, c'est que notre petit coureur de l'île de Man, là, notre sprinter favori, Cavendish, n'avait plus d'équipier dans les 800 derniers mètres. Il a beaucoup sollicité son équipe pratiquement dans les 10 derniers kilomètres et très rapidement, il s'est retrouvé tout seul. Ensuite, il a été relayé par les Argos Shimano qui ont fait un travail énorme pour Kittel, y compris de Gencolb d'ailleurs qui roulait. Mais ses équipiers n'étaient plus là et au dernier moment, les équipiers de Greipel sont arrivés. Et les équipiers de Greipel, vous remarquerez que sur les 30 derniers kilomètres, on ne les a pas vus. On n'a pas vu cette équipe venir en tête, protégée par rapport au vent, essayer d'éviter les cassures. Ils ont tout joué pour venir à 1 km 200 de la ligne. Ils sont arrivés à 4. Ils ont fait ce qu'il fallait faire, le hold-up pour cette étape.
Et une nouvelle. Alors, c'est pas encore officiel, mais a priori, Fred, on devrait assister à un changement de maillot jaune dans quelques instants.
Oui, puisqu'ils étaient dans le même temps.
Impey, 13e.
Simon Gerrans était dans le même temps que Daryl Impey, deuxième au général, son équipier de l'équipe Orica Green Edge. Et Daryl Impey vient prendre la 13e place. Daryl Impey, sud-africain, âgé de 28 ans, qui, écoutez bien, devient ce 100e Tour de France le premier coureur africain du continent africain, donc, à porter un maillot jaune. C'est un événement, ça va donner des frissons à pas mal d'auditeurs à coup sûr. Daryl Impey, coureur de 28 ans, donc ancien coureur de la formation Radio Shack, qui n'en est pas à son coup d'essai sur le Tour de France. Il l'avait déjà disputé en 2012. Daryl Impey qui avait vu sa progression contrariée par une chute intervenue sur le Tour de Turquie. Il s'était fait littéralement jeter, pulvériser dans les bas du Strade par un certain Theo Boss, le sprinter allemand. Daryl Impey qui est coéquipier donc de Simon Gerrans au sein de cette formation Orica Green Edge et qui vient décrocher, lui, le coureur, on va dire, de second rang, bon finisseur, vainqueur déjà tout de même d'une étape du Tour des Pays Basques, d'une étape du Tour de Bavière, vainqueur donc du chrono par équipe de Nice en compagnie de ses équipiers de la formation Orica Green Edge. Il vient chipper le maillot jaune à son coéquipier Simon Gerrans et entrer dans l'histoire. Daryl Impey est bel et bien un Sud-Africain en jaune ce soir.
Voilà,
et
on s'attend.
Attendez, une toute petite information, c'est qu'il y a une cassure il prend 5 secondes d'avance.
Ouais, puisque Gerrans est arrivé à la 48e position avec un retard de 5 secondes. Donc ce n'est pas à la place que Impey devient maillot jaune, mais
autant. Donc, et Cadel Evans et Christopher Froome qui terminent respectivement 17e et 18e sont les premiers de la cassure. C'est-à-dire qu'à 5 ou 6 mètres près, Cadel Evans et Froome auraient repris du temps à leurs adversaires.
Ok, d'accord. Donc
ils sont... premier Daryl Impey en jaune ce soir à Montpellier, le Sud-Africain de 28 ans, super pote de Christopher Froome puisqu'ils couraient ensemble au sein de la formation Sudaf Barlow World, on s'en souvient. Premier Daryl Impey, deuxième le Norvégien Edvald Boasson-Hagen qui garde ses 3 secondes de retard qu'il avait ce matin au départ d'Aix-en-Provence. Simon Gerrans est donc troisième à 5 secondes au même titre que son équipier d'Orica, Michael Albassini. On rappelle la victoire ici à Montpellier devant le Stadif du Manoir au terme d'une journée de stress, d'adrénaline à vitesse grand V dans la peur des bordures et des coups de vent de la Camargue. Victoire de l'Allemand André Greipel, le champion d'Allemagne de la formation Lotto Bellisol, qui devance ici sur la ligne d'arrivée Peter Sagan qui accumule les places d'honneur, 3 fois 2e, 1 fois 3e depuis le départ de ce Tour de France, le Slovaque. 3e, un autre Allemand, Marcel Kittel. Mark Cavendish, esselé dans le final et victime d'une chute à 30 km de l'arrivée, termine 4e. 5e, Lobato. Le premier Français, c'est Samuel Dumoulin à la 10e place. Pas de changement au maillot vert. Peter Sagan reste leader du classement par points. Pierre Roland est toujours porteur du maillot à poids. Michal Kwiatkowski reste maillot blanc de meilleur jeune a priori. Victoire de Greipel, maillot jaune sur les épaules du Sud-Africain Daryl Impey qui rentre dans l'histoire.
Et au classement général, le premier Français se nomme toujours Sylvain Chavanel, mais il descend d'une place. Il n'est que 6e ce soir avec un retard de 6 secondes au général sur Daryl Impey. Et si c'était l'année de l'Afrique cette année, en 2013, pour ce 100e Tour de France, Daryl Impey en jaune, il ne portera peut-être pas ce maillot jaune dans un peu moins de 3 semaines maintenant à l'arrivée sur les Champs-Élysées, mais il y en a un autre qui ambitionne de porter ce maillot jaune lors de la dernière étape. C'est évidemment Chris Froome, l'Afrique qui arrive en force sur ce Tour de France.
Une bonne nouvelle, Christophe. Thibaut Pinot ne perd pas de temps parce qu'au-delà de la 60-70e place, il y a des écarts qui montent à 10, 15 et 20 secondes. Et au classement général, c'est
c'est Boissenhagen qui prend la deuxième place.
Que de bonnes nouvelles. Que de bonnes nouvelles. L'Afrique est enfin révélée au grand public. Il n'est pas coureur de couleur, hein, Daryl Limpe, c'est un Sud-Africain blanc.
Très bien. Pierre-Yves Leroux est derrière la ligne d'arrivée avec un garçon qui a failli porter le maillot jaune il y a de cela quelques jours, Pierre-Yves.
Et avec Julien Simon qui est à l'arrière du bus Sojasen, les coureurs, ça peut paraître surprenant pour ceux qui ne connaissent pas très bien le vélo, mais voilà, les coureurs de l'équipe Sojasen sont à l'arrière de leur vélo, sur les rouleaux, en train de continuer à pédaler pour décrasser un petit peu. Et on va écouter Julien Simon à l'approche de la montagne, un terrain qui leur conviendrait mieux que ces grandes lignes droites d'aujourd'hui.
Alors qu'on pensait au début peut-être faire un peu de récup, mais bon, c'est pas, ça peut être le cas.
C'était vraiment très fort.
Ah oui, il y avait du vent. Je sais pas, il y avait peut-être 40 km/h, 50 de vent, je sais pas. Alors, par moment, ça aurait pu faire une bordure, mais même pas. Tant mieux, mais il n'y a pas eu de chute aussi, c'est ça qui est bien.
Les amis de refusaient les échappées, c'est ce que tu as ressenti?
Bah non, c'est pas qu'ils refusaient les échappées, c'est que toutes les équipes étaient un peu sur le qui-vive pour une bordure, et puis personne n'était capable de sortir quand le peloton il roulait à 50. En fait, toutes les équipes essayaient de se placer, ça roulait à 50, donc personne ne pouvait sortir. Tout le monde attendait le gros coup de bordure qu'il n'y a pas eu, en fait, donc c'était plus ça.
Julien, les Pyrénées s'approchent tout doucement. Quelle est votre forme actuelle après ce début de Tour de France?
Non, bah, pour l'instant, ça allait jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, j'étais pas super, donc j'espère que ça ira mieux les prochains jours. C'est vrai que j'avais un peu de mal dans le final à remonter. Je trouvais que ça roulait vite, donc on va essayer de récupérer ce soir et essayer de faire au moins une belle étape sur les trois qui arrivent.
Je disais à l'instant, ça peut paraître surprenant avec tous les kilomètres que vous avez fait aujourd'hui de vous voir encore sur des vélos à l'arrière du bus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous faites cet exercice?
Ouais, c'est parce qu'en fait, comme ça roulait super vite dans le final, et on a été au sprint limite pendant 20 bornes à bloc, bah, les muscles, quand on s'arrête d'un coup comme ça après la ligne, surtout comme il fait chaud, on a les grosses jambes, donc là ça permet de détendre les jambes, tourner les jambes tranquillement pour entre guillemets faire un retour au calme en prévision de demain pour un départ rapide.
Merci Julien, voilà, c'était l'explication technique aussi après la ligne ici à Montpellier.
Très bien, merci Pierre-Yves. On rappelle donc le résultat de cette étape avec un nouveau vainqueur d'étape et surtout Fred, un nouveau maillot jaune. Le premier Africain de l'histoire à endosser la célèbre tunique jaune sur les routes du Tour de France.
Il s'appelle Daryl Impey, il a 28 ans, il est sudave, donc coureur de l'équipe Orica Green Edge et profite notamment de la belle performance de sa formation dans le contre-la-montre par équipe il y a deux jours à Nice. Il vient déposséder son coéquipier Simon Gerrans du maillot jaune et effectivement entre dans l'histoire. Daryl Impey, ancien coéquipier de Christopher Froome chez Barlow World en 2008 et 2009. Daryl Impey qui vient voler la vedette au grandissime favori du Tour de France. Joli clin d'œil. Effectivement, on voit des coureurs érythréens arriver, des coureurs éthiopiens bientôt. Christopher Froome est né au Kenya, il a grandi en Afrique du Sud, bien sûr, il court sous licence britannique.
Ouais, mais c'est un Africain, c'est pas un Anglais.
Il n'a qu'un passeport.
Autant Bradley Wiggins, c'était un véritable Britannique, avec toute la morgue qu'on lui connaît, mais Chris Froome, il n'est pas anglais.
Non. Et bientôt, on l'espère, des Ivoiriens, des Burkinabés, place à la mixité, place à la pluralité. Mettez-nous de la mixité dans ce peloton qui est déjà de toutes les couleurs. Victoire ici en tout cas au sprint du champion d'Allemagne André Greipel qui devance pour sa cinquième étape du Tour, qui devance Sagan, Kittel et Cavendish.
Pierre-Yves Leroux derrière la ligne d'arrivée, toujours au contact des coureurs. Il y a du monde qui est arrivé avec du retard, hein, Pierre-Yves.
Il y a un garçon qui est devant la voiture balai en pleurs, qui peut à peine descendre de son vélo, c'est Brajkovic. On en a parlé tout à l'heure, victime d'une chute pendant le direct et là qui souffre énormément avec du sang sur la jambe droite, et là vraiment c'est un moment difficile pour Brajkovic, le coureur de l'équipe Astana, avec le bras aussi ensanglanté, la douleur sur son visage juste devant la voiture balai. C'est lui qui ferme la marche aujourd'hui, et comme souvent dans ces cas-là, on s'inquiète pour le coureur pour une éventuelle reprise demain de la course. Ça sera compliqué, tout comme pour Nasser Bouhanni ce matin, on se doutait que ça serait compliqué. Alors on prendra des nouvelles de Brajkovic là, qui a la jambe droite vraiment bien abîmée et qui a du mal à marcher.
Ok, Brajkovic, donc dernière victime en date de ce Tour de France. Fred, on va rappeler quand même qu'il y a pas mal d'éclopés, pas mal d'abandons aujourd'hui entre Aix-en-Provence et Montpellier.
Oui, oui, il y a les victorieux, les triomphateurs ici sur la ligne d'arrivée à Montpellier. Mais ce matin, il y a eu des non partants, dont Jürgen Vandenbroeck. Il y avait eu l'abandon de Maxime Bouet hier. Aujourd'hui, c'est l'ancien champion de France qui découvrait le Tour de France, sprinter de la formation FDJ.fr, Nasser Bouhanni, qui a dû mettre pied à terre et renoncer dès la sixième étape, trop amoindri par une gastro-entérite, trop amoché par des chutes à répétition depuis le début de ce Tour de France. Bouhanni qui n'ira pas plus loin. On a vu également se relever avec une fracture possible Janez Brajkovic, l'un des leaders de l'équipe Astana, le Slovène que l'on attendait notamment en montagne aux côtés du Danois Jakob Fuglsang. Brajkovic qui a terminé très attardé, on verra s'il repart demain. On a vu également à l'arrière aujourd'hui Ren Taramae, le champion d'Estonie de l'équipe Cofidis, qui a montré ses limites. Pour ces coureurs là la suite du Tour de France s'annonce un vrai calvaire.
Et oui, d'autant que la montagne arrive très rapidement. Nous sommes jeudi et dans 48 heures nous serons déjà dans les Pyrénées pour les deux premières étapes. Alors certes, ce ne sera pas le plat de résistance montagneux de ce Tour de France, Fred, mais il va falloir les escalades et les cols pyrénéens, et c'est jamais très évident, notamment l'étape de samedi et puis celle de dimanche. Hein.
Demain, on met cap vers Albi, effectivement, avec une magnifique arrivée. Le patrimoine mondial est enrichi de cette belle ville d'Albi. Et puis samedi, effectivement, ce sera direction Axe 3 Domaine, avec tout de même ce terrible col de Payère avant la montée finale en première catégorie. Pendant ce temps-là, il y en a un qui savoure avant la montagne. Il a bien raison, lui, le sprinter de formation, très longiligne, Daryl Impey, le nouveau maillot jaune. On dit Impey en Afrique du Sud. Daryl Impey en jaune.
Ça doit faire un drôle d'effet quand même, hein. Lucho, ça fait quoi comme effet de revêtir un maillot jaune comme ça sur les routes du Tour?
T'as connu ça? Oui, je l'ai connu.
Pas longtemps, oui.
Mais ne serait-ce que de le vivre pas très longtemps non plus, c'est quand même un moment extraordinaire, quoi. Parce que les coureurs qui sont professionnels, en général, ils rêvent de quoi? Ils rêvent de gagner des étapes sur le Tour, de prendre le maillot jaune une fois au moins dans leur vie, puis bien sûr les titres, quoi. Mais c'est vrai que ce maillot jaune, c'est une sorte de consécration, quoi. Et puis après, la suite du Tour, même si on le perd, elle est extraordinaire, parce qu'on sait qu'on arrive sur les champs et qu'on a porté le maillot jaune. Bon, après, la cerise sur le gâteau, c'est de faire au moins dans les 5 premiers du Tour. C'est des moments magiques, qui sont gravés à vie. Hein. Et Cyril, il le sait bien aussi.
Cyril,
il
a porté le maillot jaune. Toi aussi, tu l'as porté le maillot jaune sur les routes du Tour. Tu t'en souviens de la première fois, du premier jour?
Oh, ben oui, que je m'en souviens. Comme si c'était il y a 20 minutes, quoi.
Ah oui, c'est-à-dire
que je me trouvais dans la situation là, de Greipel au moment de l'arrivée, puisque je gagne l'étape avec les bonifications. Je prends le maillot, donc après vous êtes sur
un nuage.
Vous êtes sur un nuage, vous êtes dans un rêve. C'est en fait la concrétisation d'un rêve qui, pour moi, avait commencé à 6 ans.
D'accord.
Est-ce que pour les coureurs exotiques, qu'ils soient australiens, sud-américains ou sud-africains, pour Daryl Impey, le mythe maillot jaune est aussi fort que pour nous, français, ou que pour d'autres européens à la culture cycliste bien ancrée?
C'est une bonne question d'abord, mais qui peut y répondre? Ça me paraît difficile que moi ou Lucho on puisse.
Oui, vous n'êtes pas né en Afrique du Sud.
Ils n'ont pas la même culture que nous, déjà.
On s'aperçoit par exemple que les coureurs, on va dire, anglophones, sont plus motivés dans certaines courses que, par exemple, les Français. Les Français sont exclusivement, pas tous, mais ont pratiquement 80% de leur motivation par rapport au Tour. Et puis, c'est un phénomène relativement important. Regardez, quand vous êtes coureur cycliste professionnel, vous n'êtes pas sélectionné par votre manager, votre directeur sportif. Donc, vous restez à la maison. J'ai rarement vu, à part ceux qui s'en doutaient et qui étaient peut-être trop jeunes pour le faire, ou qui savent qu'ils ne sont pas dans le coup, qu'il y a des coureurs meilleurs qu'eux, ceux qui sont en litige et qui sont donc laissés sur le bord de la route, c'est le moment de le dire, eh bien, pratiquement tous se mettent à pleurer. Pas seulement eux, mais également leurs femmes, leurs parents. Et quand vous restez chez vous, dans votre petit village, bon, si vous habitez, dans le 16e, peut-être pas parce que personne ne vous connaît, mais il n'y en a pas de toute façon, mais quand vous êtes dans votre petite ville, dans votre petit village, et que vous ne faites pas le Tour de France, eh bien, souvent vous partez en vacances parce que à chaque fois que vous allez acheter votre pain, oh bah c'est dommage, votre mari bah, il est pas
vous
au départ
arrivé,
du tour.
Alors, pourquoi vous
allez chez le boucher, vous... alors maintenant vous avez les grandes surfaces, c'est plus facile, mais vous avez un tas de questions qui vous sont posées. Et puis pour le grand public, ne sont véritablement des champions que ceux qui sont au départ du tour. Avant vous êtes un professionnel, et quand vous faites le tour vous devenez un champion, et c'est ça la différence vraisemblablement avec les coureurs qui viennent des antipodes ou les anglophones.
Eh oui, la différence évidemment entre le Tour de France qui a pris une importance capitale par rapport aux autres courses. Avant il y avait peut-être moins de différence entre le Tour et les autres épreuves. Aujourd'hui c'est vrai que le Tour, en tous les cas dans l'esprit des Français, des Européens, c'est vraiment quasiment 60% de l'importance d'une année cycliste. Très bien, il est 17h36, on va se retrouver dans quelques instants, toujours en direct de Montpellier, à l'issue de cette 6e étape du Tour de France, remportée donc par André Greipel. Le maillot jaune change d'épaule, il est désormais sur celle d'un Sud-Africain nommé Daryl Impé, premier Africain à porter le maillot jaune sur les routes du Tour. C'était bien, c'est bien, au bout de 100 ans, il fallait que ça arrive quand même. Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC,
Intégral Tour, Christophe Cessieux.
L'intégral tour au terme de la 6e étape du Tour de France ici à Montpellier, à l'issue de cette étape donc de 176 km remportée par André Greipel, le coureur allemand de la formation Lotto Bellisol, qui s'impose. Le maillot jaune change d'épaule, il est ce soir sur les épaules d'Impé, sud-africain de naissance. Nous repartons derrière la ligne d'arrivée, au protocole plus exactement, avec Pierre-Yves Leroux qui se trouve à côté d'un porteur, de quelqu'un qui a la varicelle, il a des points rouges un peu partout.
Il a des points rouges un peu partout, on le reconnaît bien effectivement. Pierre Roland qui vient de monter sur le podium, récupérer son maillot de meilleur grimpeur qu'il espère porter évidemment dans les prochaines montées du côté des Pyrénées. On va l'écouter tout de suite et on pourra discuter un peu avec lui ensuite.
Je pense courir sur l'économie demain.
D'accord, et samedi le grand rendez-vous avec les cadors, on y verra peut-être un peu plus clair.
Ah bah là oui, s'il n'y a pas de l'éclaircissement au classement général, je sais pas ce qu'il faut, parce que Axe 3 Domaines et le col avant, j'ai plus le nom, est très dur. Donc c'est vraiment une étape, une belle étape et très, surtout très dure.
Pierre, comment vous avez vécu cette journée? Il faut être très attentif, il y a aussi la chaleur, c'est compliqué.
Bah oui, il y a tout ça, le vent, la chaleur et la nervosité du peloton. Donc c'est des journées qui sont assez éprouvantes parce qu'il faut rester concentré à l'avant du peloton. Je peux compter sur des solides rouleurs comme Jérôme Cousin. Et vraiment, mention spéciale à mes équipiers aujourd'hui qui ont été fabuleux. On les a vus, je pense, longtemps à l'avant et ça m'a permis de pas prendre aucun risque pendant la journée.
Il y a des points à prendre demain pour ce maillot, comment on fait?
Alors demain, on le laisse partir s'il doit partir et on verra plus tard.
Voilà, l'objectif, c'est toujours la meilleure place au classement général.
L'objectif, c'est de faire du mieux possible. Après, on verra, on va vite voir comment les gens me répondent à Axe 3 Domaines et après, on verra sur quel objectif partir.
Il y a une petite hésitation là. On sent que porter cette tunique, hein, au bout d'un moment, on se dit bon, l'avoir sur les champs, ça peut être bien aussi, quoi.
Le maillot à poids, on connaît sa ferveur et sa popularité. Forcément, quand on est coureur, on rêve de ça, d'être le plus populaire possible. Personnellement, depuis que j'ai le maillot à poids, j'ai jamais été autant encouragé sur le bord des routes. C'est quelque chose de grisant, de plaisant. Et bon, c'est vrai que j'ai du mal à imaginer le laisser tomber comme ça. Mais bon, faut rester sur quoi on est parti. Mais voilà, Axe 3 Domaines, on verra où j'en suis par rapport aux autres.
Un dernier mot, Pierre. Pour la première fois, un Africain porte le maillot jaune aujourd'hui. C'est le symbole de la mondialisation du vélo aussi.
Bah oui, complètement. Si on remonte à quelques années plus tard, c'était le vélo était vraiment très européanisé. Et maintenant, c'est le monde entier avec les Australiens qui sont arrivés, tous ces pays. Maintenant, même les pays d'Afrique. Nous, on a un Africain dans notre équipe qui est un coureur extraordinaire. On a nos Guadeloupéens aussi, on a un Japonais chez nous. C'est le vélo, c'est mondial, c'est une grande culture. Et en début de saison, quand je pars faire des courses comme le Tour du Gabon, le Tour de Langkawi ou le Down Under, on se rend compte que le vélo c'est dans tout le monde entier, que c'est beau et que ça plaît à tout le monde.
Il y a encore une journée galère demain à passer.
Oh, ce sera, je pense que la pire, elle était aujourd'hui.
La pire était aujourd'hui. Merci à Pierre Roland, donc porteur du maillot à poids de meilleur grimpeur. On l'a senti, hein, Cyril, Lucho. Il y prend goût quand même à ce maillot à poids. Et on le comprend parce qu'il le disait, il n'a jamais été autant applaudi que depuis qu'il porte ce maillot. On parlait tout à l'heure du maillot jaune. Lucho, le maillot à poids, c'est presque aussi bien. Et dans l'esprit des Français, c'est même peut-être plus honorifique parce qu'on n'a pas eu beaucoup de porteurs français du maillot jaune depuis des années, alors que les pois rouges, on les a vus beaucoup sur les Français.
Le maillot à pois rouge du Tour de France, c'est tradition française.
Ouais.
Hein, c'est vrai que
c'est le maillot tricolore. En fait.
Voilà, c'est un petit peu le maillot tricolore. Puis bon, bah aujourd'hui, c'était assez facile hein, pour Pierre Roland hein, de conserver son maillot à pois. Après, demain, ça sera un petit peu plus difficile parce que bon, c'est vrai que le maillot à pois, Pierre Roland, bon, il veut jouer les étapes, certainement qu'il veut gagner une étape. Il veut jouer donc le maillot à pois et le ramener sur Paris et éventuellement faire un classement général à Paris.
Et c'est on peut pas courir trois livres à la fois.
C'est vrai que courir les trois livres à la fois, c'est quand même difficile. Hein, sur le tour, soit on se concentre et on veut faire dans les 5 premiers, voire gagner une étape, mais gagner une étape, remporter le maillot à pois et viser une place dans les 5 premiers au général, ouais. Il va falloir être costaud.
Parce il va falloir faire un choix.
Du jus dans les sprints, dans les bosses quand même.
Il va falloir faire un choix, Cyril. Quand est-ce qu'on décide l'objectif, qu'on fait ce choix justement, viser soit le maillot à pois, soit le classement général, soit des victoires d'étape honorifiques justement avec des longs raids en montagne. Quand est-ce qu'il doit décider ou que son manager doit décider pour lui?
Je crois que le choix, il est fait, il était fait même avant le départ. Je vous l'ai dit, moi, dès le premier jour.
Toi, t'es persuadé qu'il vise le maillot à pois.
Attendez, classement général, on a expliqué pourquoi il ne pouvait pas le faire. Il est déjà à 1 minute 10. Bon. Ensuite, il y a d'autres contre-la-montre où on sait qu'il va perdre grosso modo au minimum 5 minutes. Ça, on fait 6. Gagner des étapes, c'est aléatoire. Et pourquoi il attaquait sur les premières étapes pour aller chercher le maillot? Et il est bien en train d'expliquer que finalement, ce maillot, c'est plus important qu'une victoire d'étape. D'abord, il en a déjà eu. Et que il ne peut aller le chercher que s'il ne va pas faire le classement général. Donc le choix, il est fait. C'est même pas la peine de tourner en rond et de se raconter des histoires.
J'y crois pas. Je suis pas d'accord avec Sir Druid.
Moi non plus, parce que ce qu'il dit est intéressant. Il dit le maillot, si demain il doit partir, il va partir. Quand on cherche à porter le maillot à poids, on le laisse pas partir, Cyril, parce qu'on ne sait pas si
il
on
a dit
récupère.
Ça. Il a dit ça. Il a dit s'il doit partir, pas de problème. Donc à mon avis, il ne se lancera pas dans un raid dans le port de Payerne, le premier col hors catégorie. Est-ce
Non, mais il parlait de l'étape de demain.
Ah non, je pense pas. On verra. Ça tombe bien, c'est juste.
Oui, non, il parlait effectivement de l'étape de demain.
Il disait que demain.
Demain, il va pas chercher les points de la montagne.
Je pense que ce sera la même chose dans les Pyrénées. Il va peut-être effectivement prendre une désillusion s'il doit la prendre, s'il n'est pas au niveau, comme il l'a dit, si les jambes ne répondent pas. Là, il faudra réorienter les objectifs et il restera effectivement de la place pour aller chercher des points, notamment dans les Alpes. Mais dans les Pyrénées, je pense que la stratégie de Pierre Roland et de l'équipe Europcar, qui, rappelons-le, a tout intérêt à briller au plus haut niveau dans sa quête d'un repreneur. La stratégie de Pierre Roland dans un premier temps, ce sera tout pour le classement général. Rappelons qu'il a tout de même terminé à 2 reprises, 10e et 8e dans le top 10 donc, du Tour de France, ancien meilleur jeune. Quant à son âge, on termine 10e et 8e. On peut nourrir cette ambition-là.
Mais attends, de toute façon, demain, il n'ira pas faire les points parce qu'il y a une échappée qui va partir de bonne heure. Donc, s'il veut faire les points demain, il va falloir qu'il soit dans l'échappée.
Non, mais demain, il a dit qu'il
entre ce que l'on dit la veille et
ce que l'on dit aussi devant les micros n'est pas la même chose.
Voilà. Alors attention, parce qu'il y a quand
très bien, Lucho.
Voilà, il y a 2 cols de 2e catégorie, 1 de 3e et une petite côte de 4e catégorie. Alors à la limite, peut-être que les équipiers de Roland vont vouloir faire un petit peu le boulot pour qu'il essaye de marquer le plus de points possible dans les premiers cols de la journée.
Ou en tous les cas, pour que les autres ne les prennent pas. Très bien, Fred, on va rappeler. Ouais, non, on n'est pas d'accord. C'est bien. On n'est jamais d'accord.
Le terrain nous donnera sa vérité, c'est formidable.
Exactement. Fred, on va rappeler donc le tableau d'honneur de cette 6e étape entre Aix-en-Provence et Montpellier.
Très très belle étape, très animée. Il n'y a pas eu d'échappée. Les invités dans les voitures suiveuses aujourd'hui chez ASO n'ont pas dû vivre une journée de rêve parce que
ils n'ont rien vu de la course.
C'est le scénario cauchemar. Ils ont été brassés
comme on dit dans le langage cycliste, brassé à l'avant, interdit de s'intercaler où que ce soit, puisque le peloton a été groupé quasiment sur l'intégralité des 176 km entre les Alpilles et la Camargue avant l'arrivée à Montpellier. Étape très mouvementée, on redoutait les bordures, il n'y en a pas eu, il y a eu des chutes qui n'ont pas concerné les sprinteurs. Un blessé majeur, Brajkovic, un abandon principal, l'ancien champion de France, Nasser Bouhanni, qui n'a pas pu participer au sprint du jour, remporté ici devant le Stade Yves du Manoir à Montpellier par le champion d'Allemagne André Greipel, qui en avait gagné 3 l'an passé, une il y a 2 ans, donc 5e victoire de sa carrière sur le Tour de France pour le gorille de Rostock. Il devance Peter Sagan, 2e pour la 3e fois depuis le départ de
ce Tour de France.
Un jour viendra peut-être. Marcel Kittel est 3e, Marc Cavendish qui a chuté lui aussi à 30 km de l'arrivée est 4e, 5e Lobato. Le premier français, c'est Samuel Dumoulin à la 10e place, mais l'événement du jour, c'est la prise de pouvoir, tout relatif parce qu'il devrait rendre son paletot dans les Pyrénées, mais c'est la prise de pouvoir d'un Africain en tête du classement général. Il s'appelle Daryl Impey, il est sud-afrique de l'équipe Orica Green Edge et il détrône pour quelques secondes Simon Gerrans, qui a été victime d'une cassure. Daryl Impey, sud-africain de 28 ans, membre de l'équipe Orica, qui devance au général le Norvégien Boasson Hagen de 3 secondes et donc l'ancien maillot jaune Simon Gerrans 5e, Chavanel est 6e, Froome 7e, Porte 8e. Vous voyez que les favoris sont pas bien loin. Nicolas Roche et Kreuziger sont dans le même temps qu'Alberto Contador à 14 secondes. Les autres maillots à poids, on l'a entendu pour Pierre Roland toujours avant le début de la montagne. Maillot vert plus que jamais sur les épaules de Peter Sagan qui continue de marquer des points sans remporter de victoire. Maillot blanc sur celle du Polonais Kwiatkowski. On a tout dit. C'était bien, c'était beau, même s'il n'y a pas eu d'échappée. On a bien vibré et on entre dans l'histoire aujourd'hui avec donc ce premier coureur du continent africain qui porte le maillot jaune. Très beau clin d'œil pour le 100e Tour de France.
Cyril, même si évidemment il n'y a pas eu d'échappée, tu nous l'as dit tout au long du direct, aujourd'hui ça a envoyé dur et ce soir les coureurs du peloton vont être contents de rallier leur hôtel, d'aller au massage parce qu'ils ont souffert aujourd'hui sur les routes du Tour.
Oui, tout le monde a souffert sur ces routes du Tour, d'une part parce qu'on avait des températures déjà au-dessus de 30 degrés, donc les organismes souffrent un petit peu plus, souffrent un petit peu plus dans cette chaleur, mais c'est vrai pour tout le monde, donc c'est aux coureurs peut-être de gérer, mais il y avait aussi ce vent qui l'a rendu très difficile, et puis il faudrait se sortir un petit peu de cette idée qu'un peloton qui arrive au sprint, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de course. C'est totalement faux. Lorsqu'un peloton arrive au sprint et qu'il n'y a pas eu d'échappée, c'est que personne n'a pu prendre 2,50 m. C'est-à-dire que dès qu'il y avait une échappée, ça roulait derrière. Même quand on a vu la première échappée là de l'Espagnol Maté, tout de suite derrière, il y avait tellement de tension avec ce vent qu'il ne pouvait pas, alors qu'il n'était pas dangereux, ni au classement général, il aurait pu prendre un quart d'heure, on aurait été le chercher dans le final. Et bien même là, on s'est pas occupé de ce coureur qui était échappé. On a fait du tempo derrière parce que l'étape était trop dangereuse. Donc, rappelez-vous, quand une échappée se produit, c'est que le peloton la laisse partir. Quand il n'y a pas d'échappée, ça veut dire que ça roule et que la course est très dure.
Très bien, voilà l'analyse du druide Cyril Guimard que l'on retrouvera tout à l'heure entre 19h et 20h et puis un peu plus tôt avec Virginie Fulpin, ce sera tout à l'heure à 18h20. Tiens, c'est l'heure du jeu Tour de France RMC. Aujourd'hui je vous offre la possibilité de gagner le jeu Pro Cycling Manager, simulation officielle du Tour de France sur PC, le jeu de société L'Échappée Infernale et également dans notre petit paquet cadeau le livre Le Contour des amis Serge Lager et Claude Mignan. Et puis surtout, ouvrez bien vos oreilles, je vous offre votre place top VIP pour assister au contre-la-montre entre Avranches et le Mont-Saint-Michel qui aura lieu la semaine prochaine. Ce sera le mercredi 10 juillet avec l'aller-retour en hélico depuis Paris, le suivi de l'étape dans une voiture de l'organisation, le déjeuner et l'accueil dans le car VIP sur la ligne d'arrivée. Bref, une journée de rêve pour tenter de gagner ce superbe pack cadeau. Vous envoyez tout de suite le mot-clé RMC par SMS au 7 32 16. Il est là avec nous, Sébastien Larasse. On va voir s'il a été bon. Aujourd'hui, moi, j'étais pas mauvais puisque je donnais le vainqueur de l'étape. Parce que toi, t'as donné le cheval.
C'était quoi la cote?
Ah, je sais plus. On va demander à Benji. 6.
Eh ben, c'était mieux que le gagnant du Quintet, le 17, Sam Gibus. Et ouais, pour une fois, c'était 2 contre 1. Il s'est baladé, le favori de notre Quintet, au dépens du 2. Let's Go On, la 3e place pour le 12, synonyme de Sim. L'As Return of Fright a pimenté un peu les rapports en se classant à 4e devant le 13, Speedy Horse. 17, 2, 12, As et 13 pour le quintet du jour qui rapporte plus de 7 600 € dans l'ordre. Un non partant de dernière minute, c'était le 16. Lui, il n'est pas non partant. Il est avec nous, Cédric de Génicourt. Salut Cédric.
Oui, bonsoir à tous.
Demain, on va galoper du côté de Deauville l'après-midi. Puis on n'ira pas très loin le soir pour le quintet puisqu'on trottera sur l'hippodrome de Cabourg. Ils sont 16 au départ du quintet.
Oui, j'ai choisi le numéro 9, Scott WL, c'est une course européenne, donc ces chevaux-là n'ont pas beaucoup d'engagement et son entraîneur a visé cette course. Yoann Le Bourgeois le retrouve après sa victoire à Biorel-les-Rouen auquel il était associé il y a de cela peu de temps. Donc attention, il peut aller très loin en partant devant.
Et moi je vous conseille, bon je vais rien inventer avec le 10, Trésor du Lupin qui reste sur d'excellentes performances. Tout comme le 14, Titi Madri qui devra rendre 25 mètres, mais c'est faisable sur l'hippodrome de Cabourg. On se retrouve demain, bien entendu, on sera en direct de Deauville. Les bonnes infos d'ici là, comme d'habitude, et également des gagnants en vélo. Bravo Christophe sur rmcsport.fr.
Merci Seb, à tout à l'heure.
PMU, PMU.fr, Paris sportifs, Paris hippique, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Voilà, c'est la fin de l'intégral tour. On va se retrouver évidemment dans une petite heure pour analyser tout ça. Cyril sera avec Virginie dans quelques instants. Virginie qui est là, elle a moins le sourire qu'hier, et oui,
le cave. Oui, si, quand même, j'ai le sourire. Oui, alors pas pour Cavendish, ça c'est sûr.
Non, faut pas gagner tous les jours non plus. Hein.
En fait, j'ai le sourire parce qu'on a chaque jour notre surnom. Donc hier, on avait Patanok. Bon, ça c'est le tien, Christophe.
Le gorille de Rostock.
Voilà, le gorille de Rostock. Ça c'est plus toi, donc c'est Greipel. Le vainqueur au sprint de la sixième étape. On va en parler effectivement avec Cyril à 18h20 tout à l'heure. Que de sprinteurs dans cet intégral sport, puisque Usain Bolt, excusez du peu, est à Paris et il a accordé un entretien à RMC Sport. Et puis on va évidemment fêter la qualification de Marion Bartoli pour la finale de Wimbledon. On ne connaît pas encore son adversaire, hein. Lisicki ou Radwanska, elles sont encore sur le court, hein. 7 partout. On est à la fin du troisième set et on va suivre ça avec Eric Salio, notre envoyé spécial à Wimbledon. À tout de suite.